Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
Qu'est-ce qui va donner un vrai glow-up à Arsenal par rapport à la saison dernière?
C'est vrai quoi?
Un glow-up, ça veut dire quoi, Julien?
Tu passes le palier, tu passes
voilà,
le palier.
Voilà, un step-up, un glow-up, un step-up.
J'ai vu la dernière année quand il jouait à Lusitanos. Oui. Mais bon, c'est quand même le meilleur tireur de coups de pied arrêté que j'ai vu de l'année. Toute division confondue.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Oui, hommage à Kevin Diaz par Bruno Satin, notre ami de l'After, agent de joueurs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir Walid Acharchour. Bonsoir Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Simon Dutin, salut Simon.
Salut Nico, salut tout le monde.
Et Kevin Diaz, bonsoir Kevin.
Salut à tous.
Tranquille?
Bien.
Ça va très bien.
Kevin,
bien.
Le boulard pendant le jingle, il était là, il a acquiescé avec sa tête.
Oui, non mais Kevin, c'est comme Benzema maintenant, il ne sourit plus.
Ah non mais il a...
Sur les photos, il ne sourit plus.
Ah non mais il a
quand
pris...
Quand il nous dit bonjour, il ne sourit plus.
Il a pris un melon.
C'est étonnant.
Je viens de sourire sur mon compte Instagram à l'instant pour...
S'il faut suivre ton compte Instagram.
Ah bah c'est clair que je fais pas le show comme Walid hier à Roland-Garros. On a vu que lui dans la tribune.
Ah non, on l'a pas vu, mais c'est lui qui a montré qu'il était.
Il s'entoure sur ses propres photos.
Il zoomait les photos d'image de mon fils. Regardez le plus rose, c'est moi.
Ah d'accord, ok, donc c'est comme ça maintenant.
Ouais, en gros, pour lui, c'était lui le roi de la soirée. Quoi.
Ah, j'ai vibré sur Gaël, mon fils. Le roi de vibrer, c'est mon joueur préféré.
Par contre, c'est quoi ce truc avec tes petites lunettes noires là? C'est ta marque de fabrique?
Oui, ça me tue.
T'as des problèmes de vue ou c'est le style?
Non, en fait, c'est le pollen en ce moment. Donc j'ai des petits yeux. Donc je mets des lunettes.
Ouais, des petits yeux.
Voilà. Mais t'es encore dormi.
Ouais. Des yeux de mouche.
Au programme de Génération Acteur ce soir, Marseille, Igor Tudor, c'est donc déjà fini. Bonne ou mauvaise nouvelle, appelez-nous 32-16 supporters marseillais. A-t-il laissé le club dans un meilleur état qu'à son arrivée? Comme il le dit, la continuité est-elle impossible pour un coach à l'OM sous Pablo Longoria? On va débattre de toutes ces questions. Flo Germain nous rejoint également dans un instant. 20h40, notre invité, Adrien Thomasson, milieu de terrain du RC Lens. Il est sur un nuage, il va jouer la Ligue des Champions à 29 ans après avoir joué le maintien à Strasbourg. Il a surtout une grande qualité, il est fan de l'After. Et de Gilbert, notamment, bien sûr, époque strasbourgeoise. À 21h, Paris, le PSG a-t-il raison de tenter le pari Asensio, arrivé de l'Espagnol en très bonne voie. Fred Hermel sera avec nous pour nous faire un peu une radioscopie de sa période, longue période madrilène, auréolé de nombreux trophées. Et puis avant l'ultime journée de Ligue 1, Monaco, Rennes, Lille, qui voulez-vous voir en Europe la saison prochaine? C'est Génération After, jusqu'à 22h, et puis à 22h, bien sûr, Gilbert Bribois. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars.
Salut, Gilbert.
Tu sais Gilbert. Que tu es dans Génération After quand tu vois les trois mecs sur leur portable en train de faire des vidéos pour Instagram alors que la mission a démarré.
Ouais, ben, on met
les... Ça, c'est Génération After.
On te fait croquer, Gilbert. On te mentionne. Et les followers, grâce à nous.
Ça communique.
On utilise nos réseaux sociaux.
Ça communique sur soi, en fait.
Oui, c'est ça.
Sur soi.
Vous faites votre propre promo.
Ça fait vivre la communauté.
Il est où le collectif, là?
@afterfoot. On arrobase à chaque fois.
Voilà, on a arrobasé l'émission. C'est Walid qui m'avait appris
cette expression.
Ça s'appelle le marketing, le personal branding.
Et bien évidemment.
Chacun a sa propre marque à défendre.
Non, mais c'est pas ça, monsieur Jamin.
Chacun a sa propre marque
qui travaille pour la marque maison mère, donc la holding. Qui est Génération After avec la Hall Holding, qui est l'After Food.
Mais pourquoi tu me demandes toi alors? Fais juste des photos du décor de l'After et ça marche très bien aussi.
Ah, ben moi, c'est ce que je fais.
Moi, je me contente de ça.
T'es pas sur les photos,
Nicolas? Ah non, je suis pas sur les photos, moi.
Ah, t'es pas?
À partir du moment où.
Ah, d'accord. Que à Roland-Garros.
Donc, il critique, Nicolas Jamin critique, mais il regarde pas en fait.
Ah, mais il comprend rien, Nico. Tu vois?
Inondé de vos messages, de vos photos, vos stories, tout ça.
Il a Génération After, au lieu de défendre un peu la nouvelle génération face à Gilbert, il y connaît rien, lui.
C'est la génération Z.
Ah non, mais non.
La génération Z, c'est des gens connectés. Qui sont dans le visuel. C'est ça, c'est, pour les toucher, c'est comme ça.
Il faut être connecté. Même s'il n'y a pas que ça, bien évidemment.
J'ai bien ce délect, il nous regarde. avec
ce recteur. C'est là que je me dis qu'on a réussi le truc, quand même.
Mais bien sûr, on a réussi le truc, évidemment. Qu'y a-t-il au programme, Gilbert, à partir de 22h?
Alors, Daniel Riolo et Stéphane Guy seront là, aussi totalement Génération Z, comme vous le savez. Ils veulent donner leur avis sur Tudor. On va également parler foot féminin ce soir et quand même essayer de comprendre pourquoi personne ne veut diffuser le foot féminin. Donc, personne n'est content. Les joueuses, Hervé Renard, la fée aider, la FIFA veut de l'oseille, est-ce que c'est eux le responsable? On va en parler tout à l'heure. Et puis le mercato du PSG, parce que là, entre Asensio et Lucas Fernandez, on peut commencer quand même à se poser des questions. J'ai dit quoi?
Fernandez.
Ah oui, autant pour moi. Je sais pas pourquoi. Je suis toujours ramené à un Fernandez quand je parle de PSG.
Question de génération.
Ouais, t'as bonne répartie.
Donc, bah, du coup, est-ce que cette stratégie est la bonne? On se posera la question. Et puis, on continuera notre série sur les traîtres dans le foot. On a parlé l'autre jour des traîtres, on va dire, européens. Là, on va se concentrer sur les Français quand même, parce qu'on a une petite liste. Voilà, ce sera tout à l'heure au 32-16.
Justement, je t'ai envoyé une liste de traîtres du football mondial historique sur Instagram, Gilbert, l'autre jour. Mais je crois que tu l'as pas reçu.
C'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu. Alors
voilà. Gilbert, Instagram, je ne savais pas, je l'apprends ce soir.
Oh, 10 000 followers, respecte un peu les influenceurs.
Ouais, 10 000 followers sans activité réelle.
Alors, j'aimerais bien parler à ces 10 000 followers parce que sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils cherchent.
Au plaisir de suivre Gilbert Brivois, c'est toi.
Exactement, juste de le suivre.
Tu te dis. Un truc peut tomber un jour.
Ah oui, c'est ça. C'est...
Un truc peut tomber. Un truc peut tomber à tout moment.
Exactement.
Merci Gilbert. À tout à l'heure à 22h. C'est parti pour Génération After. Vous nous appelez au 32-16, bien sûr, pour débattre avec Walid, Simon et Kevin. Le hashtag RMC Live sur Twitter et l'application RMC et RMC Sport à télécharger si ce n'est pas déjà fait pour Direct Studio. Envoyez vos commentaires. On va parler d'une belle séparation, messieurs. C'est rare que ça se passe bien, mais dans le monde merveilleux de Pablo Longoria, c'est comme ça que ça se passe. Igor Tudor va donc quitter l'Olympique de Marseille après une saison comme Sampaoli. Tout le monde était content tout à l'heure en conférence de presse. Flo Germain y était et il est avec nous ce soir dans Génération After. Salut Flo.
Exactement. Salut Nico, salut les gars.
Salut Flo.
Salut à tous. Tu y crois cette séparation en forme de déclaration d'amour ou pas vraiment?
Non, j'y crois. Bah, j'y crois pas à 100%. C'est trop gros. C'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a une opération un peu. Enfin voilà, on voulait soigner cette sortie. Il y avait un enjeu d'image très clair avec Igor Tudor. Mais c'est bien en même temps. Hein, enfin, ça le met en valeur. Entouré de Pablo Longoria, de Javier Ribalta, où en fait, voilà, on veut expliquer que c'est son choix, que c'est comme ça, qu'on est très content, que tout va bien. Bon, pour moi, c'est pas l'exacte vérité, mais malgré tout, voilà, en termes de com, je pense que c'est réussi.
Mais quel intérêt avait l'OM et Pablo Longoria à communiquer ainsi? C'est la question que je pose.
Il y a plusieurs intérêts. Déjà, pour Igor Tudor, c'est toujours important de dire que c'est sa décision.
Bah évidemment.
En termes d'image, c'est mieux pour lui. Et puis, pour Pablo Longoria, déjà, ils ont une culture foot qui est très italienne, notamment, et ils savent très bien que Igor Tudor a des vues à très court terme ou à moyen terme pour revenir en Italie, pourquoi pas à la Juve. Donc en fait, ils garderont quoi qu'il arrive un lien fort, et je pense que s'il faut voilà, ils vont pas lui faire une crasse de dire que ça s'est mal passé sur certains moments, ça c'est clair. Et ensuite, dire que c'est Igor Tudor qui décide et que bon, on a respecté sa décision, c'est aussi tuer dans l'œuf les critiques de dire bon, avec Pablo Longoria, c'est instabilité sur le banc de l'OM, ça change à chaque fois, etc., etc. Donc là, Pablo Longoria, il a sa réponse toute trouvée. Il dit non, mais attendez, c'est Igor Tudor qui a choisi.
Moi, je voulais le garder.
Vous savez.
Mais comme Sampaoli, un peu quelque part, il y a un an, ça ressemble à ça.
Exactement. Hein. Non, mais ces derniers temps, c'est marrant, c'est toujours les coachs qui sont partis. Alors qu'en fait, en coulisses, on sait très bien que, par exemple, Pablo Longoria a laissé faire certaines choses. Le mercato a pas mal tardé pour que Sampaoli s'impatiente et finalement parte. Moi, je suis persuadé que Pablo Longoria avait en tête de faire partir Jorge Sampaoli. Donc, ça me paraît. Je veux pas. Pour moi, c'est trop gros d'expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes et que c'est uniquement sa décision.
Quand ça va très bien, on reste ensemble. Simon.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Flo, c'est bon pour l'image de Tudor, c'est bon aussi pour l'image de Longoria et l'image de l'OM, parce que tout ce petit monde s'est mis d'accord. On se quitte, comme disait Joe Dassin, on s'est aimé comme on se quitte, hein, sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite.
J'ai l'impression d'être avec Fred
aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Donc Joe Dassin,
tout ce petit monde. J'écoutais Nostalgie moi dans ma caisse. En rentrant de la fac. Non mais je suis désolé, c'est bon aussi pour Longoria, parce qu'effectivement Tudor, il n'a dit que du bien de la direction. Ce sont des personnes fantastiques, ils connaissent le chemin à emprunter. Bon, libre à nous de le croire ou pas. Forcément, s'il s'en va, c'est qu'il y a un problème, soit avec le mode de fonctionnement de Longoria, soit qu'il a quoi, il a une offre ailleurs. Non, je suis désolé, si ça se passe bien à Marseille, il a aucune raison de s'en aller. Donc c'est les deux parties se quittent voilà, avec des grands sourires. c'est bon, c'est bon pour l'image des deux parties.
De toute façon, c'est bien fait de la part des deux parties. De toute façon, on le saura jamais, comme on l'ont, comme pour Sampoli l'année dernière, on se posait la question tout l'été avec Kevin, avec Flo, sur les pourquoi du comment, si véritablement Longoria voulait le garder ou non. Là, aujourd'hui, Igor Tudor, on n'aura pas finalement les vraies explications. S'il y a de vraies explications, on verra sur les prochaines semaines ce que fera Igor Tudor aussi. Parce que si Igor Tudor retrouve du boulot très très rapidement, parce que là on nous explique que c'est parce qu'il est un peu lessivé de cette saison, parce que aussi médiatiquement peut-être que l'Olympique de Marseille représente beaucoup en termes de charge mentale, on va voir si dans trois semaines il prend la Juventus ou il va à la Fiorentina ou il va dans un autre club italien, on verra ce qui se passera.
Ouais, il dit raison personnelle et professionnelle quand même, Tudor, oui. Donc il y a forcément
Simon, il dit ce qu'il veut aussi.
Oui, non. Maintenant,
professionnel,
ça...
tu vois, s'il était vraiment rincé, tu vois ce que je veux dire, il dirait bon voilà, j'ai besoin de me reposer, puis quand, se repose de moi et retrouve un
quand
club.
Quand on donne deux justifications, quand tu dis ouais, tu sais, j'ai pas pu venir à tel rendez-vous parce que j'étais malade et en plus j'avais autre chose à faire. Alors, en général, quand tu donnes deux justifications comme ça,
c'est plus facile d'invoquer des raisons personnelles.
Est-ce qu'on aurait préféré qu'ils disent que je vais pas rester à l'OM parce que je pense que cet effectif n'a pas le niveau des ambitions du club et que aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou les supporters, pour beaucoup, ils se rendent pas compte du travail qui a été effectué. Est-ce que tu crois que ça aurait été mieux ?
Bah, c'est un peu ce qu'a fait Sampoli l'année dernière.
Ouais, mais
je suis pas sûr qu'il le pense, ça, en l'occurrence.
Ouais. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je pense que Igor Tudor, il ne reste pas à l'OM parce qu'il ne voit pas assez de perspectives pour rééditer un tel, je vais pas dire d'exploit, parce qu'il y a eu des échecs, mais une telle saison. Moi, je pense que quand dans ton effectif, t'as Balerdi, t'as Kabouré, t'as tous ces joueurs qu'on a critiqués tout au long de la saison et qui ont fait autant de matchs. Je dis pas que ce sont des mauvais joueurs, mais ce sont pas des joueurs pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions.
Kabouré n'a pas joué énormément quand même.
Moi, je pense qu'il a quand même joué. Si on met même Nuno Tavares dans la balance.
Bon, après, quand tu compares avec Lens notamment.
Non, mais c'est pas la même exigence. C'est pas 60 000 personnes chaque week-end.
Moi, je veux bien défendre Tudor, il fait un super boulot. Moi, je suis pas sur la qualité des joueurs.
Moi, je suis pas en train de défendre Tudor.
Par rapport à la Ligue 1.
Je suis en train de t'expliquer quelle peut être sa réflexion. Ouais. Mais en tant que professionnel, tu dis que tout se passe bien au club, que toi, tu préfères pour des raisons personnelles et professionnelles partir sur une nouvelle aventure parce que tu vas pas dire ce que je viens de te dire devant les médias parce que sinon, ça fait des feux, ça fait pas mal de remous qui sont pas nécessaires après une saison qui, certes, est considérée par certains comme un échec. Moi, je la considère comme une saison moyenne plus pour l'OM quand même, avec une troisième place acquise assez facilement.
Je suis d'accord avec
toi. Mais moi, pareil. Je pense que et Igor Tudor et même Pablo Longoria, ça doit être des gens qui connaissent beaucoup mieux le foot que nous, qui ont plus d'expérience et qui sont surtout lucides. La qualité dans le football, comme dans n'importe quel métier, c'est la lucidité. Et moi, je pense que Igor Tudor, il est lucide. Il sait que son management, ça a duré un an, ça a été très compliqué. Il a été sifflé avant même le premier match et il a quand même réussi à faire une belle saison. Ça arrive pas souvent quand même qu'un entraîneur soit sifflé avant même le premier match dans son club. Donc je pense qu'en effet, il est lessivé personnellement.
Donc c'est pas lié aux ambitions directement, Kevin, tu vois. Je pense qu'il a senti qu'il valait mieux partir. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je dis pas qu'il y a que ça. Et honnêtement, je crois, même si je vous le dis, il faut quand même donner la version des dirigeants. Surtout que honnêtement, c'est pas une version que face au micro, parce que je m'entretiens régulièrement avec Pablo Longoria ou Javier Ribalta. Encore après la con, j'ai un peu insisté sur les vraies raisons, et moi on me promet que c'est son choix. Mais je pense, honnêtement, moi, mon intime conviction et quelques éléments que j'ai aussi me font dire que Igor Tudor, il a senti qu'il valait mieux partir parce que son personnage, son management, tout ça avait créé trop de tensions et qu'il était un peu trop particulier quand même, et que on estimait qu'un an de plus ça serait compliqué.
Bon, reste avec nous, on va prolonger. Flo Jamain va rester dans Génération After aussi avec Simon Dutin, Kevin Diaz, Walid Acharchour. Dans un instant, on va réagir à sa déclaration. On l'écoutera, Igor Tudor, qui estime avoir laissé le club dans un meilleur état qu'à son arrivée. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? On en débat avec vous au 32-16, supporter marseillais. Vous écoutez RMC, vous écoutez Génération After. Il est 20h13. À tout de suite.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Igor Tudor a-t-il fait plus de bien que de mal à l'OM? Il quitte l'OM, on l'a appris aujourd'hui. On va en débattre encore avec Flo Germain dans Génération After, Simon Dutin, Kevin Diaz et Walid Acharchour pour nous appeler au 32-16, supporter marseillais. Le direct studio est également ouvert, n'hésitez pas à envoyer vos messages. D'abord, le direct, Roland Garros, le dernier espoir français.
Nous sommes le jeudi 1er juin. Deuxième tour n'est pas encore achevé et l'espoir repose sur un homme, Arthur Rinderknecht, et également sur Eric Salio. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Bon, salut, ça va partir.
Ils étaient 28, on a connu 27 défaites, il nous reste un espoir.
Il n'en restera qu'un.
Et encore un espoir Eric, bon...
Écoute, il faut y croire, Arthur Rinderknecht est opposé depuis quelques minutes sur le cours Susanna Glenn à un top 10, c'est ça qui est embêtant, oui, c'est pas un bon tirage. Taylor Fritz, tête de série numéro 9 de ces internationaux de France, donc Arthur Rinderknecht. Il faut gagner, sinon c'est la piquette, comme il y a deux ans, 0 = 0, la tête à je sais pas quoi, mais non, on peut
la
pas envisager
ça,
je n'y crois pas. Il va nous sauver la mise, j'en suis convaincu. C'est parti, donc 40-30 sur le service de Fritz. Et puis dans une vingtaine de minutes, quelle heure il est? Ouais, un peu moins. Le match de Night Session entre Gaël Monfils et...
Non,
il y a eu du changement.
Par contre, Rigo, t'as vécu la sensation de la journée là.
Bon, on va pas faire tout Roland-Garros.
Eric Sinner qui se fait éliminer.
Oui, que Eric avait vu encore gagnant pour la troisième année consécutive à Roland-Garros. Merci, Eric.
Cette année, on ne le sentait pas avec Jimmy Brown.
Ah bon, mais c'est tout l'inverse. Il m'a dit Jimmy. Jimmy, il a envoyé. Allez, merci, à tout à l'heure, Eric. 40-40 entre Rinderknecht et Fritz dans le premier jeu de ce duel. Écoutons Igor Tudor, donc, sur son départ. C'était tout à l'heure en conférence de presse.
C'était un honneur pour moi de travailler cette année au sein de ce club. C'était un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters comme on en trouve rarement, une énergie dans cette ville qui est rare. J'ai passé une année formidable. Je pense que je quitte le club en le laissant dans une meilleure situation que celle dans laquelle je l'ai trouvé, et ça, c'est une fierté pour moi. J'ai pris cette décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Par contre, je n'ai trouvé aucun accord avec d'autres clubs. Je ne m'en vais pas parce que je me suis disputé avec qui que ce soit ou que les gens ne m'aimaient pas, bien au contraire. Je pense que travailler une saison ici à l'OM, c'est comme travailler 2-3 ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça faisait un moment que j'y pensais.
J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée. On en débat bien sûr avec vous, Simon, Walid et Kevin et Flo également. Comment tu as réagi quand tu as entendu ça, Flo, justement? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit?
J'ai fait la moue. Parce que non, mais après, ça veut dire quoi en fait? Tu prends un club qui est deuxième, qualifié directement pour la Ligue des Champions, et tu le rends troisième, et donc pas encore qualifié pour la Ligue des Champions, ce qui est quand même pour l'OM le baromètre important d'une saison réussie. Après, il y a un autre baromètre qui, pour moi, du coup, n'est pas comptable. C'est l'adhésion du public, parce que je pense qu'il faut quand même le mettre au crédit de Igor Tudor, c'est qu'il a il a donné du plaisir globalement aux supporters qui ont bien aimé son style de jeu. Mais dire que l'OM est dans un meilleur état maintenant, franchement, je suis partagé.
Je pense qu'il parle du niveau d'exigence au quotidien également.
Ouais. Je pense que c'est la culture de l'exigence, des efforts, du travail qui a été inculqué, qui correspond exactement à ce que veut.
Il a fait progresser cette équipe et quelques joueurs quand même. Donc là, sur ça,
il y a tellement de changements, tu sais que.
Oui, après, ça va être à Longoria et on en parlera juste après. Mais c'est pour ça que c'est dur en fait d'analyser une saison comme ça, réussie, pas réussie. Il a fait mieux que Sampoli ou pas sur des résultats bruts. Moi, je pense que quand même l'Olympique de Marseille cette saison, à un moment donné de la saison, avait beaucoup d'ambition et c'est grâce à Tudor. C'est parce que Tudor a aussi permis à cette équipe de l'Olympique de Marseille de titiller à un moment donné le Paris Saint-Germain, de sortir le PSG en Coupe de France. Donc il y a eu des belles choses, il y a eu des moins bonnes choses aussi. Mais moi, je trouve que quand même dans l'entrain qu'il a donné dans le jeu marseillais à un moment donné, je pense qu'il a fait quand même progresser l'équipe. Et moi, je le répète, parce que j'ai toujours fait ce mea culpa cette saison, je pensais que ça allait être une catastrophe en début de saison par rapport à la transition Sampoli-Tudor, qui pour moi, deux entraîneurs très très différents, que ce soit dans le management ou même dans le football proposé, et il s'en est quand même plutôt bien sorti.
Mais c'est ça en fait, il faut pas oublier à quel moment il arrive. C'est pas un entraîneur qui signe le 1er juin, aujourd'hui on est le 1er juin, c'est pas un entraîneur qui signe le 1er juin dans son club, qui fait le recrutement avec son président, qui prépare la préparation, qui organise les matchs amicaux. Non, le mec est arrivé la veille de la reprise. ou le jour même de la reprise. Donc je veux dire, c'est quand même une situation dans un grand club comme l'Olympique de Marseille qui est compliquée.
Après, il a fait les matchs amicaux, etc.
Non, mais justement, c'est pas lui qui les avait choisis. Il n'a pas pu faire la préparation. D'ailleurs, ça a été.
D'ailleurs, il avait dit à l'époque que c'est pas le genre d'opposition qu'il aurait choisi.
Exactement. Et ce n'est pas du tout le type de préparation qu'il voulait, puisque lui, c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup à l'italienne en préparation. Et là, c'était une préparation à la Sampaoli avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de travail intégré en termes de préparation, alors que les Italiens sont plus dans le dissocié. C'est-à-dire de sans ballon, tu cours, tu cavales, tu te fais mal au ventre et puis après t'es prêt pour ta saison. Donc comme tu dis, c'était deux entraîneurs qui avaient un style complètement différent. Il a quand même réussi à faire un début de saison cohérent malgré les sifflets, malgré tout cela. Et je pense encore une fois que moi je pense qu'il sera regretté à l'OM.
Et évidemment, il y a quelque chose d'autre derrière, parce que évidemment, Walid, il sait compter, il a des yeux, il sait qu'il a fini troisième et pas deuxième. Bon, il y a ce record de points, mais bon, je trouve qu'il charge quand même, il en rajoute un peu. Un honneur, ce public, cette ville, c'est que du bonheur. Si tu l'écoutes, c'est formidable, il n'y a aucun
point noir. Il a même dit qu'il nous aimait, les journalistes. Non, mais
exactement, j'allais y venir, Flo. En plus, voilà, avec les journalistes, même si vous avez été un peu dur avec moi de temps en temps, ce que je veux dire, c'est que ça a quasiment été sa conférence de presse la plus souriante. De la saison, je parle sous ton contrôle, mais je veux dire, il y a aucun point noir dans le descriptif qu'il te fait. Et dans ces cas-là, t'as déjà vu des mecs partir en larmes d'un endroit où ils se sentaient comme chez eux, mais sauf que c'est parce que ils vont ailleurs, à un étage supérieur. Lui, il te dit, je ne vais nulle part. Donc il y a forcément un
jour. On n'est pas obligé de croire. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il avait résilié. C'est exactement ce
que je te dis, Walid. Moi, j'achète pas parce que ça veut dire qu'il y a soit un problème dans le management, dans le fonctionnement avec Longoria, soit avec Ribalta, parce que on rappelle quand même, il a eu Malinovski ou Naï et je ne sais qui et Vitinha au mercato d'hiver. Donc
je suis pas sûr que Vitinha ça a été demandé par Tudor.
Non, rappelez-vous, je voulais juste donner cette précision qu'il avait résilié aussi son contrat en toute fin de saison avec l'Hellas Vérone pour rebondir quelques semaines plus tard. Moi, honnêtement, je pense que
il a fait 9 clubs en 10 ans.
Tout ce beau monde est très malin, très stratège et tout le monde a un petit peu un coup d'avance là dans tout ce qu'on a vu. Les Pablo Longoria, Igor Tudor, Javier Rivalta, ils savent exactement où ils vont et
on va y aller. D'abord,
il faut pas tout prendre au premier degré.
D'abord, on va accueillir Sylvain au 32-16, supporter de l'OM. Salut Sylvain.
C'est important pour moi. Oui, bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir.
Salut Sylvain.
Merci de m'accueillir. Moi, je voulais simplement dire qu'en fait, il n'avait pas d'autre choix de partir, Tudor, pour la bonne et simple raison que les contrats ne sont pas remplis. On finit troisième, donc pas assuré d'aller en Ligue des Champions. Ensuite, il y a l'élimination en Coupe de France assez humiliante contre une équipe de Ligue 2, avec tout le respect qu'on leur doit. Et ensuite, s'il reste au barrage de Ligue des Champions, si l'OM ne se qualifie pas, derrière c'est une catastrophe. Avec le public, il aurait été obligé de partir. Donc je pense qu'effectivement, comme ça vient juste d'être dit à l'instant, tout le monde a un coup d'avance dans le jeu, que ce soit Longoria ou Tudor, qui n'avait pas d'autre choix pour moi de partir maintenant. Et Longoria aussi qui prépare un petit peu d'après pour éviter les problèmes cet été. Quoi.
J'ai une question pour toi, mon cher Sylvain. Si le jour où Sampaoli décide de quitter l'OM, on te dit que l'OM va éliminer le Paris Saint-Germain en Coupe de France, va être à trois minutes de se qualifier pour le huitième de finale et va finir troisième derrière le PSG avec le record de points de l'OM sur les 20 dernières années, tu signes ou pas?
Honnêtement, je ne sais pas. Parce que
Tu ne signes pas, donc tu pensais à une meilleure saison le jour où Sampaoli...
Tu poses une question, qui répond, Sylvain?
Ouais, parce qu'en fait, j'aurais peut-être pas signé. Non, j'aurais pas signé. Pourquoi? Parce que, en fait, on parle aussi que de Longoria où il y a besoin de stabilité dans le club. La stabilité elle se construit aussi avec des qualifications en Ligue des Champions, le recrutement de joueurs à talent plus quoi. Et pour construire ça et que les meilleurs éléments restent aussi au club. Là, à chaque fois, on sent qu'il y a du revirement. Et puis le choix de Tudor, effectivement, c'était un peu au dernier moment, un peu précipité. Je pense que la stratégie de Longoria n'était pas mauvaise du fait de bouger un peu les joueurs et quelque chose de physique aussi qui vient de la culture italienne, même s'il est croate, il a quand même joué en Italie, évolué là-bas, donc il y a cette culture-là de l'entraînement difficile, etc. Mais je pense qu'il manque un peu de crédibilité avec les joueurs par rapport à son arrivée et imposer ça de suite. On a vu, il s'est fâché avec pas mal de joueurs. Donc je pense que ça va aussi créer, même s'il y en a certains qui ont suivi, parce qu'ils n'avaient pas non plus le choix. Hein. C'est un club quand même, c'est l'Olympique de Marseille. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un peu d'erreur et que tout le monde est en train de corriger tout ça maintenant.
Je comprends pas tout, Sylvain, de ta réponse, moi non plus.
Ouais. Moi j'ai
pas tout compris.
Bon. C'est-à-dire, par rapport à ce pas signé.
Non mais oui, par rapport à la question de Kevin sur cette saison, est-ce que tu aujourd'hui, c'est pas.
Non, j'aurais pas signé, c'est ce que
j'aurais
je dis.
Pas signé.
Mais tu penses que t'aurais pu faire une meilleure saison que ça dans ces conditions?
Honnêtement, non, je sais pas. Je sais pas parce que c'est compliqué de
dire ça. Oui, t'as raison, c'est compliqué.
Et on dit aussi, si Tudor avait fini second, est-ce qu'il serait parti? On peut se poser la question aussi.
Sylvain, merci d'être venu dans Génération After. Tu peux nous rappeler en cours de l'été, on sera là tout l'été, bien sûr. Dans un instant, on va évoquer la suite, et bien sûr, et Pablo Longoria, deux entraîneurs en deux saisons pour lui. Est-ce impossible, peut-être, de travailler dans la durée à Marseille sous Pablo Longoria? Flo, tu peux rester encore 2-3 minutes avec nous?
Je vous attends, il n'y a pas de problème.
Ça la rend pas
bon. Sinon, t'es bien, mon cher Flo, c'est passé à table, hein, tu sais, il n'y a pas de problème. Suspense, on verra s'il sera avec nous dans 4 minutes.
J'attends.
Allez, à tout de suite, Flo, avec Kevin Diaz, Simon Dutin et Wally Descherchons. Vous écoutez RMC Génération After, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Simon Dutin, Kevin Diaz, Wally Descherchours et notre correspondant à Marseille, Florent Germain. On parle de l'OM. Tudor a donc décidé de partir après une saison à l'OM. Nous allons parler maintenant de l'avenir, forcément. Alors, important, on ne l'a pas encore dit, mon cher Flo, Javier Ribalta dit qu'il n'y a pas de successeur trouvé pour le moment. On y travaille.
On n'est pas obligé de le croire non plus. C'est toujours pareil. Hein. Vous savez, c'est de la faute de Pablo Longoria, parce que Pablo Longoria, il a tellement un coup d'avance à chaque fois que moi, au fond de moi, je pense qu'ils savent très bien qui ils veulent. On nous dit effectivement qu'il n'y a pas de contact, mais de toute façon, s'il y avait eu des contacts, ça voudrait dire qu'on nous ment en disant qu'on est un peu pris de court par le départ d'Igor Tudor, donc le feuilleton et l'opération com ne tiendraient plus. Donc,
rafraîchis-moi la mémoire, Flo, l'année dernière, Tudor, il était dans les rumeurs de l'entraîneur
ça s'est fait hyper rapidement. Je me rappelle bien j'étais déjà en vacances pour vous dire, mais on avait quand même suivi le dossier de loin. Sampaoli s'en va et je crois que dans le lendemain ou au pire 48 heures le nom de Tudor sort, hein. Donc on n'a même pas eu le temps de se poser 10 000 questions, mais honnêtement je pense que ils savent très bien qui ils veulent. On n'a pas le nom, on va pas vous dire de bêtises, mais
qui veulent, dans quel sens, dans le profil aussi?
Oui, de toute façon ce sera un profil un peu dans l'intensité à la Tudor. Par exemple, pour rien vous cacher, Marcelino, j'en avais parlé avec Pablo Longoria il y a quelques jours déjà, le week-end dernier. Il m'a pas dit que ce serait lui si jamais Tudor partait, mais que il aimait bien cet entraîneur. En plus, ils sont amis, ils sont proches. Que en fait, l'avantage d'un Marcelino, c'est qu'il y a une certaine continuité avec Igor Tudor dans l'intensité. Mais lui, il a une adaptation tactique que n'a pas forcément Igor Tudor, parce que je sais que l'un des griefs pour les dirigeants de l'OM concernant Igor Tudor, c'est qu'il s'est jamais adapté, alors que parfois, peut-être sur certains gros matchs, il aurait fallu avoir une réflexion tactique un peu différente. Je sais que les dirigeants en ont quand même conscience. Donc voilà, Marcelino, c'est un entraîneur qui plaît à Pablo Longoria. On m'a dit aujourd'hui que c'était pas forcément lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du bluff? Je sais pas. Le nom de Gallardo aussi est évoqué. Bon, on verra. Il y a une liste de rumeurs assez large. Et on va suivre ça.
Bon, Marcelino, je rappelle, qui est libre depuis son départ des clubs de Bilbao.
En tout cas, je pense que l'entraîneur qui va suivre Igor Tudor, il va falloir qu'il soit très costaud. Parce que pour le coup, les joueurs, ils vont avoir, et c'est normal, une forme de décompression après que le général soit parti. Et donc, il va falloir que ce soit un excellent entraîneur et surtout quelqu'un qui a une adaptabilité qui est quand même de haut niveau.
Et ça pose la question de, est-ce qu'aujourd'hui un entraîneur à l'Olympique de Marseille peut durer?
Après, sous Pablo Longoria.
Est-ce qu'un entraîneur peut durer tout court, hein? Tu sais, aujourd'hui, la moyenne pour un entraîneur.
Oui, mais sauf que là, il n'y a pas de raison. Oui. Ça s'arrête dans l'absolu. La saison, vous l'avez dit vous-même ici.
On vient d'avoir un auditeur, et c'est le seul qui nous dit que la saison de l'OM, elle aurait jamais dû commencer avec cet entraîneur.
Sur deux saisons où
elle est plus que ratée. C'est pas le seul qui dit qu'elle est ratée.
Sur deux saisons où on est d'accord sur ce plateau, on a une écriture plutôt positive de l'Olympique de Marseille par rapport aux résultats, surtout
pas positif, réaliste.
Voilà, livre, c'est positif quand même.
Ah bah moi, la saison de Sampaoli et la saison de Igor Tudor, moi quand Sampaoli part, je dis j'aurais bien aimé avoir une deuxième saison, et pour Igor Tudor, pour moi je suis cohérent là-dessus, j'aurais bien aimé aussi avoir une deuxième saison pour voir si cette équipe-là aurait pu encore progresser, si cet entraîneur aussi aurait pu progresser, parce qu'il a fait des erreurs cette année, et je pense que voilà.
C'est sûr qu'il peut progresser.
Moi Igor Tudor, je pense que sur les prochaines années, il retrouvera un bon club. Hein. On parle de la Juventus, on parle peut-être de la Fiorentina. Je pense que aujourd'hui, Igor Tudor aurait pu progresser à l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même dommage que dans un club, et ça pose la question par rapport à Longoria, même s'il y en a qui me diront a raison que finalement à l'Olympique de Marseille, dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, quand les clubs, quand les entraîneurs ont fait une deuxième saison, ça s'est jamais finalement très très bien passé. Villas-Boas, Deschamps la troisième saison, Rudy Garcia aussi, etc. Mmh. Donc c'est un argument qui est valable. Mais quand même dans le football moderne, faire un reset saison après saison, parce que tu changes de coach, mais on sait très bien ce qui va se passer, comme l'année dernière. Il va avoir les prêts, notamment, qui vont pas être reconduits. Il va avoir des petits coups de la part de Longoria. Il va avoir des joueurs qui vont peut-être se poser la question. Il va avoir des départs. Il va avoir des carrières peut-être qui vont s'arrêter. Donc, on repart un peu dans cette espèce de reset avec un nouveau coach. Et moi, je trouve que par rapport à ce qu'on voit avec Kevin ou Simon dans le football européen, l'instabilité, ça, ok, peut-être que cette année ça a marché. En tout cas, ils ont limité la casse cette année. Mais est-ce que l'année prochaine, est-ce que constamment Longoria va pouvoir faire ça? C'est la grosse question.
Si tu vires l'entraîneur ou que t'es content que ton entraîneur s'en aille chaque fois que tu finis troisième
ou deuxième
en barrage de Ligue des Champions ou deuxième, et que juste parce que tu t'es fait cirer par une petite équipe de Ligue 2 en Coupe de France, tu considères que la saison est ratée. Effectivement, bon, tu vas avoir un peu de mal à construire.
Après, là, les gens te diront que c'est Tudor qui voulait partir. C'est pour ça que Longoria, en termes de communication, il a gagné finalement.
Ce que tu dis, Walid, ça me fait penser un petit peu au football turc. Moi, c'est un football que j'apprécie, c'est un grand grand pays de foot, et pour avoir joué et fait des stages en Turquie, franchement, il y a une ambiance autour des clubs qui est incroyable, et en fait ils adorent le changement, c'est-à-dire ils adorent le joueur qui arrive,
joueur permanent, ouais.
Voilà, et pas forcément tous les clubs, mais souvent tu te dis, ah tiens, c'est, ah, il est déjà parti lui, même des fois des joueurs, des entraîneurs, ouais. Et donc et on avait vu ça un petit peu, on avait comparé l'OM avec la Turquie lors des arrivées d'Alexis Sanchez, même si c'était bien moins impressionnant,
la
etc.
ferveur,
et tu vois, sur la ferveur à l'aéroport, et c'est vrai que les Marseillais aiment ça.
On peut poser la question à Flo également.
Il y a beaucoup de supporters qui aiment ça aussi, hein, parce que regarde ce qui fait le buzz à chaque fois, ce sont les infos mercato. Est-ce qu'il va venir, pas venir? Il y a
un coach différent d'un joueur, encore une fois.
Je rebondissais sur le reset perpétuel dont parlait Walid. C'est vrai que normalement, dans un club normal, on aime de la stabilité, mais il y a des clubs, et on vient encore une fois, je prends Sylvain, notre auditeur précédent, qui avait son discours, moi je suis pas d'accord, mais qui avait son discours qui, pour lui, était très cohérent, en fait. Non, cet entraîneur, non, ça va pas. Donc il y a quand même beaucoup de gens à Marseille qui pensent que Igor Tudor, c'est pas ou c'est plus l'homme de la situation. Oui. Donc en fait, le reset perpétuel, ça les dérange pas tant que ça.
On a le droit de pas être d'accord avec Sylvain. Je crois que c'était à peu près notre cas à tous les
trois. Pas d'acharnement sur Sylvain, messieurs.
Non, non, on peut l'entendre
c'est pas une comme question de pas être d'accord. C'est une question de l'entendre et de dire en plus qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui.
Comme dit Flo, la période du mercato, je pense qu'elle excite un peu tous les supporters. Alors concernant les joueurs, les mouvements de leur club, et même de toute façon quand t'aimes le foot, t'aimes cette période de changement de joueurs. Moi j'ai surtout l'impression, je finis par me demander si c'est pas Pablo Longoria qui adore le mercato et qui adore en fait jouer à Football Manager.
Mais on peut demander
finalement
à Flo, ça.
Et si c'est pas sa passion finalement de reconstruire chaque année, peut-être basé sur des impératifs financiers qui à Marseille te poussent à ce fameux trading et tout, prendre des mecs et savoir que dans un an, dans deux ans, tu vas être obligé de les revendre. Mais j'ai l'impression qu'il adore ça et que ça le dérange pas de conduire ça à la place d'un entraîneur.
Oui, non, mais vous avez même pas besoin de me le demander, c'est évident. C'est Pablo Longoria, je sais pas s'il adore le mercato, mais en tout cas c'est un domaine dans lequel il se sent fort et légitime, et dans lequel il a le plus de contacts. Quand tu vas certains personnages du foot racontent que si tu passes une soirée avec Longoria, ses yeux ils pétillent un petit peu quand tu parles de joueurs repérés, de...
Ouais, mais là c'est son plaisir personnel, Flo, que tu décris en fait.
Non, mais c'est qu'il se sent fort aussi dans ce domaine.
Projet sur la durée, stabilité.
Il a toujours
Marseille.
Plein d'idées. Oui, mais d'accord. Mais on me demandait si c'était pas un petit peu Longoria qui était moteur dans cette volonté de souvent changer l'effectif. Après, il essaye aussi souvent de trouver des solutions avec un budget qui est pas non plus extensible. Il y a eu de grosses dépenses aussi. Faut pas dire
ça. Faut pas l'oublier.
Faut pas l'oublier. Il y a de grosses dépenses, mais
les petits bouts de bois là de l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Hein. Refaites-vous les deux trois derniers mercato, ça dépense l'OM.
Oui, mais avec quand même quelques coups ci et là.
C'est, oui, oui, oui.
Tu vois,
mais ça dépense.
Oui, ça dépense. Non, j'ai pas dit le contraire. Ça dépense, mais il y a quand même quelques idées ci et là avec des accords avec Arsenal pour un joueur prêté, même si c'est sans option d'achat. Enfin, on sent quand même qu'il est pas à court d'idées.
Oui,
globalement.
Y a d'idées.
Je parle pas de. C'est très clair. Maintenant, l'OM a une masse salariale niveau Ligue des Champions. Il y a beaucoup de dépenses. Faut pas croire que les dirigeants de l'OM ils font avec des bouts de ficelle et que Marseille est un club qui n'a pas.
Mais juste pour rebondir très rapidement, Nico, là-dessus. C'est que pour l'instant, Longoria, il a tout bon
publiquement dans la communication, on en a parlé un petit peu avec Flo sur l'After OM qu'on a tourné tout à l'heure.
Très intéressant d'ailleurs.
Publiquement,
qui est en ligne bien sûr.
Ouais, publiquement,
comme l'After Lyon, comme l'After Paris.
Publiquement, Igor Tudor a dit qu'il voulait partir. Donc aujourd'hui, quand on va parler de l'instabilité. Si nous, on arrive aujourd'hui en disant, voilà, l'instabilité à l'Olympique de Marseille me dérange et quid de Longoria par rapport à ça? Bah, Longoria, il a sa réponse en disant, non mais moi, je voulais garder Igor Tudor voulait partir. Donc là, c'est validé. Et la deuxième des choses, c'est sur le côté, notamment, l'instabilité, on a changé deux fois de coach. Oui, mais quand j'ai changé deux fois de coach, j'ai fait deux fois podium. Donc, que ce soit sur les résultats et même dans la communication, pour l'instant, c'est dur d'incriminer Longoria par rapport à ça.
Il y a quand même un souci dans ce que vient de dire Flo, c'est que il vient de dire justement que l'OM a une masse salariale de Ligue des Champions. Mais selon moi, et je pense selon Igor Tudor, l'OM n'a pas un effectif qui a le niveau de la Ligue des Champions.
Après, peut-être pas pour aller loin, mais au moins pour s'y qualifier à coup sûr en fait. Ouais. Et d'ailleurs un petit mot là-dessus. Ouais. Il faut pas croire que le départ d'Igor Tudor c'est une victoire pour la petite brochette de joueurs qu'on a souvent décrit en conflit avec Igor Tudor. Je pense que quoi qu'il arrive, ça c'est vrai, Javier Ribalta et Pablo Longoria ont toujours soutenu les méthodes et cette exigence d'Igor Tudor. Et honnêtement, je pense que ceux qui se sont mis un petit peu en travers de la route ou qui ont contesté, qui n'ont pas plu à Igor Tudor, il y a de grandes chances qu'ils partent dans leur majorité.
Bon, merci Flo d'avoir joué la présentation avec nous. À très vite sur RMC. L'été sera chaud pour toi aussi, comme toujours à Marseille, comme l'hiver d'ailleurs, comme les quatre saisons.
C'est quand même un souci d'avoir un effectif qui a le niveau pour se qualifier pour la Ligue des Champions, mais pas pour la jouer quand même.
Après ça, tu sais, Kevin, moi sur les effectifs, j'ai quand même beaucoup de mal.
Parce pour que jouer la Ligue des Champions.
Non, sur la valeur des effectifs par rapport à ce qu'en fait les coachs, par rapport à ce qu'en font les coachs, pardon. Par exemple, hier j'ai vu une finale d'Europa League avec Loïc Badé et Goudel en défense centrale. J'ai vu une équipe de l'AS Roma avec aussi des manques criants à certains postes. Tu sais, moi, et c'est pas contre toi que je dis ça, Kevin, mais aujourd'hui la valeur des effectifs en Europe.
Non, mais là, tu te trompes complètement. Séville en Ligue 1 est qualifié en Ligue des Champions.
Non, mais aujourd'hui.
Non, mais Séville en Ligue 1 est qualifié en Ligue des Champions.
Oui, mais c'est pas un problème.
L'effectif.
Mais d'accord, mais bah, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. L'OM, ils font 3e et 2e l'année dernière.
Ce que Walid veut dire, c'est que sur le papier, Séville, avant de leur parcours en Ligue Europa, n'avait pas des joueurs aussi forts que ce qu'ils sont en réalité.
Alors on arrête justement, c'est une pause.
C'est toi qui parles de papier.
Dans un instant, les auditeurs de l'After de Génération After auront la parole. Mais ils arrivent.
La même chose pour Franck l'année dernière. La valeur joueur, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'en font les coachs? Qu'est-ce qu'en font les coachs? Pour moi, c'est ça qui est le plus important.
Allez, pause, on revient dans un instant. On avec Mehdi au 36-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC. Merci d'être avec nous avec Kevin Diaz, Simon Dutin et Walid Acherchour. Avant d'accueillir Mehdi, messieurs, je vous laisse 2 minutes pour achever votre débat qui portait sur la notion d'effectif.
Moi, je disais, pour revenir sur ce que Kevin m'expliquait, sur la valeur de l'effectif brut, en disant que l'Olympique de Marseille, avec son effectif, n'est pas capable de jouer la Ligue des Champions, moi, j'en ai marre de ça. Parce qu'en fait, on prend uniquement le papier, et c'est la même chose. On nous dit la même chose sur l'Olympique de Marseille, en Ligue 1, par exemple. En Ligue 1, mais ils pouvaient pas faire mieux parce qu'ils avaient pas l'effectif. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Kevin, par rapport à Caboret, par rapport à d'autres joueurs. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, il y a des effectifs qui sont bien inférieurs à l'Olympique de Marseille. Et j'en parlais sur Bruges, sur l'Union Saint-Gilloise, notamment, ou même d'autres. On peut en citer énormément qui peuvent faire des résultats en Ligue des Champions, c'est-à-dire soit se qualifier, chose pour le Sporting, la même chose pour Francfort, et qui ont des effectifs bien moins outillés que l'Olympique de Marseille sur papier.
Je connais, puisque tout à l'heure, en antenne, tu me demandais si tu disais qu'on ne connaît pas bien les joueurs de Bruges, par exemple.
Ouais.
Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, Bruges, en championnat cette saison?
Non, j'ai pas suivi.
D'accord, t'as pas suivi. Bah, ils n'ont pas fait une bonne saison en championnat. Donc en fait, ce qui se passe sur 3 matchs de Ligue des Champions. Non, mais ce qui se passe sur 3 matchs de Ligue des Champions. Oui, mais bon, d'accord.
8 même, parce qu'ils vont en 8e de finale de Ligue des Champions.
Ok, mais derrière, ils se prennent 2 raclées par le Benfica.
Non, mais en fait,
d'accord.
Non, mais le débat, c'est de dire est-ce que cet effectif-là peut.
Mais tu parles de papier alors que.
C'est toi, tu parles de papier, Kevin.
Non, c'est toi qui me parles de papier. Tu me dis on parle du papier. Alors que moi, je ne parle pas du tout du papier.
Tu parles de quoi?
Je parle des prestations que l'on voit week-end après week-end sur le rectangle vert.
Oui.
Le rectangle vert, c'est pas un papier. Le papier, c'est un rectangle blanc.
Bien,
on est d'accord.
Évidemment.
Moi, je te parle du rectangle vert avec une pelouse au milieu.
Oui,
d'accord. Donc, ce qu'on voit sur la pelouse, oublie le papier.
C'est
ce qu'on voit sur la pelouse, d'accord, c'est des limites dans l'effectif marseillais. Ouais. C'est ce que moi je juge.
Et qu'est-ce que
tu peux juger que c'est un effectif qui est meilleur que celui de Bruges si tu veux. Non. C'est deux contextes différents.
Tu prends quel effectif entre Bruges et Marseille? Tu prends quel effectif?
Mais ça n'a rien à voir, puisque toi-même
et
tu me parles
que tu
de contexte.
Mais Kolasinac marque contre Tottenham.
Mais Bruges, ils vont
qu'est-ce
pas
que tu dis à ce moment-là? Ils ont l'effectif ou pas l'effectif pour faire bonne figure, Marseille? Est-ce qu'ils ont l'effectif ou pas à ce moment-là?
Mais c'est pas la question.
Ils ont battu Sporting deux fois. Est-ce qu'ils ont l'effectif ou ils ont pas l'effectif? Contre Francfort, ils ont l'effectif ou ils ont pas fait l'effectif? Explique-moi.
Mais non, mais
explique-moi.
Mais chaque match.
Comment
ça...
et le FC Séville arrive avec Gudelj et Loïc Badé qui était remplaçant à Nottingham.
Mais le FC Séville, donc, donc ils ont fait une bonne saison en Liga, le FC Séville, avec ces joueurs-là.
Ils ont fait 11e.
Avec Sampaoli,
ils ont fait 11e.
Mais c'est pour ça que tout est une question de. Tout est une question
de.
Eh bien, en Europe, comme en France, c'est une question de contexte. Puisque la même équipe de Séville que j'ai commentée hier sur RMC Sport, qui vient de gagner la Ligue Europa, elle était dans le trou avec un entraîneur que tu adores qui est Sampaoli. Les mêmes joueurs, Gudelj, etc.
Donc
c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Je te parle de contexte. C'est
contexte,
un contexte.
Pas effectif, contexte. Le contexte, coach, qu'est-ce que tu en fais?
Mais non, mais non, mais non, mais.
Non, parce que contexte, c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, Kevin.
Mais si.
Là, effectivement,
mais
ce que Mendy Libar a fait de Séville.
L'effectif.
C'est bizarre.
L'effectif est différent de ce que Sampaoli a fait de Séville. Donc,
c'est
une question de qualité de joueur, c'est le coach.
Mais
c'est pour ça qu'il crée une dynamique et qu'il optimise son effectif.
De toute façon, tu prends l'eau, Kevin, là-dessus.
Wow. C'est ça son problème, c'est qu'il croit qu'on prend l'eau. Walid,
ça a débordé là justement.
Walid, justement, là tu débordes. Mais
l'effectif, ça veut rien dire.
Mais le contexte non plus, ça veut rien dire. C'est un tout. Tout est un tout. Est-ce que l'entraîneur passe avec Guendouzi? Est-ce qu'il passe avec les qualités de Payet? Le problème, c'est pas si Payet c'est un bon joueur de foot. C'est est-ce qu'il passe dans le système?
Oui.
Je vais pas aller jusqu'à la tactique.
C'est ce que
dit Walid.
C'est ce que dit tout à l'heure.
C'est ce que dit Walid.
Mais d'accord, mais c'est ce que tu dis, mais tu veux pas entendre.
Bon,
tu veux pas entendre que
Jacques Lhomme n'avait pas l'effectif pour bien figurer
Payet
en Europe. Payet
ne joue dans aucune équipe qui joue la Ligue des Champions,
mais,
en fait.
Mais encore une fois, Payet était remplaçant cette saison.
Mais justement, je te parle du banc, je te parle de l'effectif.
Allez, stop,
je te parle pas du 11. Quand on parle de l'effectif, c'est les 22, 23 joueurs.
Mehdi au 32-16. Salut Mehdi.
Ils ont compris, je pense.
Salut Mehdi.
Salut les gars.
Et merci de ta patience. Hein. Merci
salut
beaucoup
Mehdi,
de ta
désolé,
patience.
On a plus salut de popcorn, Mehdi. Désolé, on a tout mangé.
Selon Walid, Marseille va gagner la Ligue des
Champions. Laissez parler Mehdi, s'il vous plaît.
Ah d'accord, voilà, il caricature. C'est pas grave.
Laissez parler Mehdi, on l'accueille.
Moi, j'ai coupé mon micro.
Walid, Mehdi, on t'écoute. Je sais pas si tu veux déjà réagir au débat qui animé entre Walid et Kevin.
Moi, j'appelais surtout pour Longoria. L'été dernier, déjà, j'avais appelé plusieurs fois. J'avais un discours qui dénotait par rapport à l'ensemble des supporters. Notamment avec toi, Walid, j'en avais parlé sur le fonctionnement de Longoria. Je me posais d'énormes questions.
Mmh.
Et moi, je pense que Longoria, en fait, il se trompe dans sa fonction. Il est président. Et le président, pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision sur le long terme. Moyen-long terme, si tu préfères. Le directeur sportif aussi doit avoir une vision sur le moyen terme. Et le coach, une vision sur le court terme. Et je pense qu'en fait, tout le staff marseillais, du président au coach, ils n'ont qu'une vision court-termiste. Et en fait, comme ça, on va rien pérenniser. Et je pense qu'on tourne en rond. Comme tu disais tout à l'heure, on fait des resets à chaque fois. Et nous, en tant que supporters, déjà d'une, on peut pas s'attacher à des joueurs, parce qu'il y a tellement de renouvellement à chaque fois. Et donc, en fait, je pense que, en fait, on va aller nulle part comme ça. On a un gros budget qui nous permet d'être encore sur le podium, notamment aussi la faiblesse de l'adversité en championnat. Mais je pense que Longoria, il se trompe. Et j'ai surtout peur pour mon OM à moi, qu'en fait, il joue un peu à l'apprenti sorcier, et qu'en fait, il joue avec notre club et avec l'argent de McCourt.
Il joue au Football Manager, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais il fait pas que. Mais vous savez.
Lui, il doit quand même avoir une vision plus réfléchie.
Mais tu sais, le reset permanent, si on regarde bien, c'est soit des joueurs qui sont trop forts pour l'OM et donc qui sont achetés, notamment pour Camara et Saliba, ou qui ne peuvent pas être gardés en prêt, en l'occurrence pour Saliba. Mais ce que j'essaye en vain de faire comprendre à Walid, c'est que les beaux discours sur le jeu, sur Bruges y arrive, pourquoi pas nous, sur arrêter de parler d'effectifs, c'est qu'il faut juste prendre tous les joueurs de l'OM, et j'ai la liste sous les yeux, en fait. Et la liste de l'OM, elle n'a, et c'est pour ça que quand je parle d'effectif, je ne parle pas du 11 qui joue tous les matchs, je parle de l'effectif global de l'OM. Si je vous cite les noms, il y a des joueurs, vous les connaissez même pas. Donc en fait, que ce soit le poste de gardien, Paul Lopez, laisse-moi juste 30 secondes. Paul Lopez, il jouera dans aucun club qui va jouer la Ligue des Champions. Ah, aucun. Aucun. Ah, je te parle même pas titulaire. Hein, je parle.
Ah, mais
titulaire.
Paul Lopez, c'est qui l'a recruté?
Paul Lopez. Non, mais d'accord. Mais Paul Lopez, Eric Bailly. Ah, bah oui, Eric Bailly, il est cramé depuis 3 ans. D'accord. Balerdi, on en a assez parlé. D'accord. Gigot et Klose, ils sont très bons. Mbemba, il a l'expérience Porto. Moi, c'est pas mon joueur préféré. Mais ok, je le mets dans la cage. Ok, pour la Ligue des Champions. Ouais. Après, déjà, tout ce qui est Kabouré. Je vais m'arrêter juste au défenseur. Tout ce qui est Kabouré, tous les jeunes qui sont derrière, etc. C'est trop léger. C'est beaucoup trop léger. Nuno Tavares, pareil, trop léger.
Laisse Mehdi te poser une question.
Donc en fait, l'effectif de l'OM global des 25 joueurs. Ce n'est pas la moitié des joueurs ne joueront pas la Ligue des Champions s'ils ne restent pas.
Mehdi,
ouais, c'est la faute à Longoria. Il a un
mais ça, budget, d'accord, mais il n'y a pas de problème là-dessus si tu veux.
Salariale, que tu veux l'entendre oui ou non, mais c'est lui qui choisit les joueurs. Et moi, je trouve. Est-ce que tu trouves normal qu'un club comme l'OM, avec le budget qu'on a, on prend des joueurs comme Nuno Tavares, comme Kabore, sans option d'achat, comme Saliba, on a déjà fait les erreurs. En fait, on dirait qu'on est les succursales des grands clubs, alors qu'on est l'OM. Moi, je pense que ça, c'est déjà une grosse erreur. Et je pense que les supporters sont trop conciliants avec ce genre de pratique. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein.
C'est vrai.
Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas.
C'est pour ça que le départ, et je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure Mehdi, mais le départ de toute cette discussion, c'est ma question qui disait, est-ce que vous trouvez ça normal que l'OM ait une masse salariale de Ligue des Champions, mais n'est pas un effectif de Ligue des Champions?
Bon, c'est ton avis en tout cas sur l'effectif. Je sais pas ce que ça veut dire effectif de Ligue des Champions et effectif
les gars,
de 8e de finale, demi-finale. Voilà,
évidemment, c'était toute la nuit. Hein.
Stop, on arrête là. Mehdi, merci d'avoir été patient.
Salut
Mehdi. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Le tennis, Roland Garros, la terre tremble, mon cher Eric Salio. Un seul homme va peut-être sauver le tennis français.
En tout cas, c'est un début de match assez fantastique de la part d'Arthur Rinderknecht face à Taylor Fritz, puisque le breton, le néo-breton, mène 5 jeux à 2 dans une première manche où vraiment il donne tout, il a beaucoup de réussite, beaucoup d'audace, et pour l'instant, balle de 7 à venir pour Arthur Rinderknecht, je rappelle, le dernier français en cours dans ces internationaux 2023. Si vous voulez, on la suit.
On la suit.
Avec, en attendant, je vous donne l'évolution du score sur le central, puisque Alexander Zverev mène 4 jeux à 2 face à Alex Molcan. Il y a un an, quasiment un an, jour pour jour, il se blessait, souvenez-vous, face à Rafa Nadal. Donc il retrouve ce court maudit. Mais il y a eu un bel accueil, en tout cas. Balle de 7, donc pour Arthur Rinderknecht sur le court. Susan Langlen qui est quasiment comble. Et le français, donc, est au service sur le revers de Taylor Fritz. Taylor Fritz, l'américain, est cueilli à froid, qui ne s'attendait sûrement pas à être chahuté comme ça. L'échange s'installe et il est sauvé par l'américain.
Ah, son jeu, c'est effrité.
Pardon ?
Son jeu, c'est effrité. Au fur et à mesure de.
Fritzé, oui.
Son jeu, c'est Fritzé. En revanche, il est comme à sauver une première balle de 7 pour l'instant. Ouais. Bravo, Walid.
Comme tes arguments, Walid.
Après, son
bravo, droit, Kevin, avec, bravo, avec, Simon. Allez, on revient dans un instant, pause.
Son coup droit, il a la patate.
Et on sera avec notre invité, Adrien Thomasson du Racing Club de Lens. A tout de suite, c'est Génération After.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Simon Dutin, Walid Acharchour, un débat animé, vous l'avez entendu. Vous pourrez écouter en podcast également.
Oui.
N'hésitez pas à le faire pendant votre jogging.
Pas méchant, je pense
que en écoutant ce cadre de débat, vous allez accélérer, je pense, hein, dans l'ascension là, chez vous. Ça va vous booster un petit peu. Le tennis, et lui, il est complètement boosté, surboosté. C'est Arthur Rinderknecht, dernier français en lice, tableau féminin et masculin confondu. Eric Salio, tout va bien pour lui.
Ah oui, belle première manche d'Arthur Rinderknecht. 6 jeux à 2 face à Taylor Fritz, qui est quand même membre du top 10, qui a très bien joué durant la saison sur terre avec des demi à Monte-Carlo, à Munich et à Genève. Donc c'est une vraie performance. Il n'a jamais battu de top 10 dans sa carrière. Je crois que le moment est choisi, le moment est parfait là pour contredire cette statistique.
Et voilà. Quelle conclusion de première manche, Eric, comme un grand service volé,
une volée amortie magnifique.
Je sens moins enflammé que pour Gaël, mon fils, Eric. Tu as un problème avec Rinderknecht ou c'est pas ton joueur, ça?
Pardon?
Non, tu l'appelles Rinderknecht et pas Arthur ou. Bizarre.
Il est un peu tout neuf sur le circuit, même s'il a, je sais pas quel âge il est, il doit avoir 25 ou 26, mais il a fait ses études, de longues études aux States. Ouais. Et c'est là qu'il est devenu un joueur de tennis aguerri, mais membre de l'équipe de France de Coupe Davis, faut pas l'oublier. Mais il est moins connu que Monf, Joe ou Richie, bien sûr.
Il est bon celui-là. Caro également, Kiki Caro, aussi.
Voilà. Caro, on va la laisser tranquille.
Allez, tout le monde ne laisse pas tranquille. Hein. Tu vas nous accompagner ce soir. On espère qu'un Français sera au troisième tour de Roland Garros. Arrivé dans le studio de Génération After de Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
On va se faire sanctionner, qu'est-ce qui se passe?
Bonsoir Gilbert.
Breaking news.
Wow. Oui, parce que pendant que j'écoutais Génération After d'une oreille, je suivais le combat de Jonathan McCarthy. Deuxième combat de Jonathan, il a gagné son premier, rappelez-vous, à la main.
Victoire et défaite.
Bah alors, déjà, Jonathan, 37 ans. Wow. 37 ans, hein, il était face à un jeune.
Ouais, donc il a perdu.
Voilà, ça un jeune sénégalais de 18 ans.
Septuple champion de France, je crois.
Et ouais, alors c'est bizarre parce que s'il a 18 ans, est-ce qu'il était déjà
très bizarre. Pas,
c'est bizarre.
Ce que dit Jonathan en tout cas. Ouais.
Alors là sur la et là j'étais peut-être pas le bon sur la
photographie parce qu'il a pas 18 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé Gilbert?
Bon, évidemment mise en scène, Jonathan qui rentre bras levés, qui monte les biceps et tout, les tatouages, machin et puis il s'est fait défoncer.
Oh non. Non, pas possible.
Oh non.
Il a perdu.
Ça a duré 30 secondes.
KO premier round.
Violent. C'est du grappling, alors faut comprendre toutes les règles et tout, mais à un moment il s'est fait coincer la couille. Tout rouge là.
Il a tapé trois fois, il a terminé.
C'est pas bon, et la bête, il a fait allez, stop, au revoir.
Wow, le pauvre.
On rigole, mais c'est triste.
Après,
quand même.
Il était pas favori.
Il sera de bonne sorte dans l'after.
Apparemment, pour le débrief,
faut le soutenir. Ouais.
Apparemment, c'était un crack.
Bravo, quand même.
Bravo.
C'était un crack, mais il avait aussi dit je vais le plier.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais bon.
Mais je l'ai pas senti aussi confiant.
Peut-être un peu trop de trash talking.
Ouais, un peu, peut-être.
Merci Gilbert.
Gilbert, il est bon en commentateur de.
T'as vu comme il a fait ça bien?
Oui, je suis rentré. La technique.
Ouais. Il est en courant pour me ménage le suspense. Il dit rien pendant deux minutes et à la fin, il s'est déplié.
Il doit être au fond du trou là.
Ah, c'est dur, je pense. Ouais. Bon, écoute.
J'espère que Nico, tu vas lui envoyer un message.
Écoute,
même.
On va l'accompagner. Ouais, bien sûr, bah, évidemment, même l'appeler, Joe.
Ouais.
On va laisser tranquille pour l'instant, en tout cas. Voilà, donc nous avons notre invité dans Génération After, milieu de terrain du RC Lens à 29 ans. Il va découvrir la Ligue des Champions la saison prochaine. Adrien Thomasson est dans Génération After. Bonsoir, Adrien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Adrien.
Merci d'être avec nous. Merci à Gibaud qui est à tes côtés. Bonsoir Gibaud.
Bonsoir les amis. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors on est heureux de t'avoir, Adrien, d'autant que paraît-il, tu es un grand auditeur de l'After. C'est ce que m'a dit Gibaud. Est-ce vrai?
Exactement. Ah. Moi, c'est un plaisir de passer avec vous parce que c'est vrai que sur le chemin de l'entraînement, que ce soit l'aller et le retour, je me mets les petits podcasts. Donc et ça fait longtemps. Hein, ça fait depuis. Plus d'une dizaine d'années que j'écoute la radio avec assiduité. Ouais.
C'est vrai, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que les joueurs écoutent notre émission l'After?
Écoutez, pour en discuter, non, pas trop. Je crois que je suis là ici à Lens. Je crois que je suis l'un des seuls, mais y a pas de problème. Hein. Je vais essayer de rameuter un peu la troupe et comme ça, on sera plusieurs à vous écouter. Ouais.
En plus, avec ton âge, Adrien, t'es très génération After et pas seulement les vieux de l'After après nous.
Exactement, j'ai connu je pense que je suis bon carrefour, c'est-à-dire que j'ai connu le vrai toujours l'After et maintenant la génération After, donc c'est avec plaisir. Ouais.
C'est un plaisir de t'avoir Adrien. J'espère qu'un jour tu feras partie de la table peut-être après carrière, le plus tard possible pour toi. Mm-hmm. Bon Adrien, parlons de toi, ton club, le Racing Club de Lens. Sur l'échelle du kiff de 1 à 10 à Lens, t'es à combien là actuellement, tu penses?
À 10, sans hésitation.
Ah oui,
parce que depuis samedi dernier, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'on réalise pas tous, moi le premier, le fait de pouvoir participer à la prochaine Ligue des Champions, le fait d'être vice-champion de France, parce que c'est quelque chose qui va rester dans les annales. Donc non, c'est vraiment un vrai kiff et il faut qu'on profite justement de l'instant présent parce que je sais pas si on aura la chance de revivre ce genre de saison.
C'est vrai que ça ressemble à un plan parfait en fait pour toi. Tu quittes Strasbourg et heureusement Strasbourg se maintient, donc forcément t'es pas insensible au maintien du Racing Club de Strasbourg. T'arrives dans un club qui joue le très haut de tableau avec un public extraordinaire. T'en as connu un très beau à Nantes, un magnifique également à Strasbourg. Te voici à Lens et en plus intégration réussite, mais quasiment d'entrée. 19 apparitions en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. Tes stats sont très plus qu'intéressantes. Je le rappelle, 5 mois plus tard, c'est 19 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. Comment se fait-il en fait? Parce que parfois, quand on arrive dans un club et d'une équipe qui marche bien, peut y avoir des regards un peu en coin. Ouh là là, est-ce qu'il va pas un peu déséquilibrer l'effectif?
Ouais, exactement. C'est vrai que quand je suis arrivé au club, je me rappelle très bien, c'était courant janvier. J'avais aussi cette incertitude-là de me dire est-ce que ça va marcher pour moi, parce que j'arrivais dans une équipe qui marchait déjà très bien. Après, je savais aussi que je pouvais apporter mes qualités à la façon de jouer de l'équipe, mais voilà, il y a toujours cette part d'incertitude là. Après, j'ai eu la chance d'avoir du temps de jeu assez rapidement sur mes premiers matchs, que ça soit en coupe et en championnat. Et après, c'est vrai que ça soit au niveau pro ou au niveau amateur, de toute façon, on a tous connu ça. À partir du moment où on est plutôt bon sur le terrain, l'intégration est toujours plus facile. Après, j'ai eu la chance aussi d'arriver dans un groupe qui est exceptionnel, qui m'a tout de suite bien accepté parmi eux. Et c'est vrai que dans le monde professionnel, c'est quelque chose d'assez rare. Et oui. et j'ai eu la chance d'arriver dans ce genre d'effectif. Ouais.
Mais Adrien, c'est vrai que Nico le rappelait à l'instant, la particularité de ton arrivée au mercato, c'est que l'équipe tourne déjà bien. Tu arrives avec Fulgini pour instiller un peu de concurrence, un petit peu d'émulation dans ce groupe. Est-ce que ta polyvalence t'a servi? Parce qu'on a l'impression que tu sais tout faire sur un terrain, que tu peux jouer partout. C'est quoi le poste où tu te sens le mieux? Est-ce que tu as l'impression que cette polyvalence, elle t'a servi pour accélérer ton intégration?
Oui, bien évidemment, je pense que ça a été c'est un plus ce côté polyvalent. Après, j'ai toujours été formé en tant que milieu offensif, donc le poste que je joue actuellement, que ça soit plus côté droit ou plus côté gauche en dessous de l'attaquant, c'est des postes où je me sens vraiment à l'aise, mais on va dire que je peux aussi évoluer un peu plus bas sur le terrain parce que voilà, je pense que j'ai cette capacité de répéter les efforts, d'avoir un bon volume de jeu. Et je dirais vraiment ce qui dans le schéma du coach, dans la façon de jouer de l'équipe, c'est vraiment dans un système dans lequel je me retrouve et qui met vraiment en valeur mes capacités, mes aptitudes physiques. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que je prends énormément de plaisir et quand on prend du plaisir pour un joueur, c'est toujours plus performant. Toujours plus facile, pardon, d'être performant sur le terrain.
Il y a un élément important, Nico, c'est que, en discutant avec Adrien tout à l'heure, Francaise te suit depuis le national. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Explique-nous. C'est fou.
Non, c'est assez, je dirais, surprenant d'un côté, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert lors de mon arrivée. Il me l'a dit quand j'ai signé au club et ça remonte à la saison 2013-2014, donc c'est il y a 10 ans en arrière. Et voilà, de par les échanges que j'ai eu avec lui, avec Greg Thiel aussi, avec Arnaud Pouille, je me suis vraiment senti désiré par les parties importantes du club. Et pour un joueur de foot, il y a rien de mieux que de se sentir vraiment apprécié. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tout fait de mon possible pour rejoindre le club.
Comment tu pourrais décrire le travail au quotidien de Franck Hayes, justement, du management à l'aspect purement technique?
C'est vraiment quelqu'un qui responsabilise beaucoup, que ce soit nous les joueurs, mais aussi son staff technique. C'est beaucoup les adjoints qui agissent, qui commandent pendant la semaine d'entraînement. Lui, il intervient surtout la veille du match sur l'aspect tactique. Et après, c'est quelqu'un de très calme. On sent vraiment qu'il a été imperturbable tout au long de la saison. Peu importe le match qui est arrivé, on a senti vraiment cette sérénité en lui. Et je l'ai dit récemment, mais je pense que l'équipe est vraiment à son image.
Donc Adrien, Ligue des Champions, saison prochaine. Je rappelle, tu as signé 3 ans et demi à Lens. Tu es bien installé dans l'effectif, un titulaire désormais. Est-ce que tu as le sentiment que vous avez besoin d'autres renforts, de beaucoup de renforts pour figurer comme il se doit, et c'est l'ambition de Francaise également, en Ligue des Champions?
Écoutez, c'est une bonne question. Après, j'aspire à être directeur sportif à l'avenir, mais je le suis pas encore. Donc, ça va être, c'est pas évident pour.
Tu vas pas aider Greg Thiel, non, à faire le recrutement, non?
Je préfère être encore sur le terrain pendant de nombreuses années, mais non. Après, c'est une question que va forcément se poser les dirigeants et le coach. Après, ça va être une nouvelle compétition pour nous. C'est la compétition la plus relevée au monde. Donc, bien évidemment, qu'il y aura des retouches à faire. Et je pense que c'est dans l'esprit de tout le monde ici au club. Après, voilà, mon rêve et notre souhait à tous les joueurs de l'effectif, c'est de découvrir cette compétition avec l'équipe qu'on a actuellement. Même si, voilà, on est réaliste et on sait très bien qu'avec les sollicitations extérieures, ça va être difficile de garder tous les joueurs.
Tu le crains, ça, justement, vraiment, excuse-moi, Simon, de perdre des joueurs importants de l'effectif. On sait qu'il y a des joueurs à forte valeur marchande, hein, Danso, Brice Samba également, Seko Fofana, bien sûr, entre autres. Est-ce que c'est une crainte chez toi, personnellement? Est-ce que tu y penses, là?
Oui, bien sûr, c'est une crainte. Après, d'un autre côté, ça mettra en valeur la saison exceptionnelle qu'on est en train de vivre, et puis bien évidemment, ça récompensera les joueurs un peu plus individuellement. Mais voilà, après, dans le football, tout peut arriver. Mais honnêtement, je serais content si un joueur de notre effectif actuel rejoint un grand club européen. Et après, voilà, personne n'est irremplaçable. Mais malgré tout, on sait très bien que ça peut affecter l'effectif et le niveau actuel de l'équipe. Ouais.
Adrien, vous serez dans le chapeau 4 pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Moi, j'ai eu l'occasion de dire ici que il y a aucune équipe, à mon avis, en Europe que vous pouvez pas ne pas inquiéter dans un grand soir à Bollard. Est-ce qu'il y a un club qui te fait rêver? Est-ce qu'il y a une équipe que tu rêves d'affronter l'an prochain, au moins dans la phase de groupe?
Oui, bien sûr. J'ai plusieurs idées en tête, mais je dirais, moi, mon rêve ultime, c'est mon équipe de cœur, c'est d'affronter le Real Madrid. Ah. Donc, je sais que je vais faire plaisir à Fred Hermel.
Que tu as vu samedi dernier, qui était à Bollard.
Exactement. Donc, je pense qu'on est deux à souhaiter jouer le Real Madrid. Après, moi, je suis fasciné par le football anglais. Donc, le fait de jouer une équipe de Premier League, ça serait quelque chose de très beau. Et puis après, pour finir, de jouer dans un stade mythique, que ce soit au Bayern ou à Dortmund, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait vraiment, qui me ferait vraiment kiffer. Ouais.
L'Oréal, Adrien Thomasson, c'est aussi Luka Modric qui, lui, va prolonger. Il sera là encore la saison prochaine en Ligue des Champions. Certainement, c'est encore à confirmer. T'as des origines croates, hein, c'est bien ça, Adrien?
Exactement, de par ma maman et mon grand-père du coup maternel, c'est un pays que j'allais souvent visiter en étant plus jeune. Donc pour moi, ça serait exceptionnel de jouer contre le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football.
Ah, tout simplement. Ouais. On en est pas loin en même temps. T'as raison. Bon, échange de maillot en tout cas si on a un bon Real Lens ou Lens Real en phase de poule, bien sûr.
Et Adrien, dans le style, t'es quand même plutôt Kovacic, non, que Modric, non, j'ai une bêtise?
Ouais, Kovacic, on va dire qu'il est plus dans la projection. Mais Modric, ouais, voilà, c'est la technique à l'état pur. J'aimerais avoir son extérieur du pied. Je me suis exercé, mais je l'aurai jamais, malheureusement pour moi. Mais c'est vrai que Kovacic, comme Modric, comme Rakitic, qui a gagné encore l'Europa League, c'est des joueurs qui sont exceptionnels. Que j'essaye de m'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et c'est vrai que c'est des milieux de terrain ultra modernes.
On sent que t'es heureux, hein, quand tu nous réponds. Bon, heureux d'être avec nous dans l'after.
Ouais, il est content d'être là.
Et aussi heureux de la saison. Lui, j'imagine que le matin.
Il a un grand sourire, je vous le dis. Hein. Bah oui, il a un énorme sourire.
Comment faire autrement? La vie est parfaite pour Adrien Thomasson. Non seulement il est avec nous, en plus, chaque matin il se réveille, il sait qu'il joue à Lens et qu'il va jouer avec des champions à 29 ans. On a un petit quiz habituel qu'on fait, Adrien. On va le faire avec Simon. Tiens, première question, Simon, tu peux y aller?
Oui, moi je peux pas m'empêcher parce que le regard d'un joueur, il est forcément plus précieux que tous ceux de nous journalistes. Est-ce qu'il y a un joueur dans l'effectif du Racing Club de Lens qui est plus fort que ce que l'on croit savoir? Est-ce que toi qui les côtoies tous au quotidien, est-ce qu'il y a un mec qui selon toi n'est pas assez mis en valeur par les médias ou pas assez adulé par les supporters, plus fort que ce que l'on dit de lui, quoi?
C'est une bonne question, mais il y a un nom qui me vient tout de suite en tête parce que en fait, quand je l'affrontais, quand j'étais à Strasbourg, je me rendais pas compte de sa valeur, de comment il était fort sur un terrain. C'est Frankowski. C'est un joueur qui m'impressionne vraiment, que ce soit aux entraînements et en match. Et je pense que c'est un joueur, c'est même sûr pour moi, c'est un joueur qui est vraiment sous-coté, que ce soit de par les médias, mais aussi de la part des supporters, ou même j'irais même plus loin du milieu du football. Donc c'est vrai que j'ai la chance de jouer avec lui depuis que je suis arrivé à Lens, et c'est un très très bon joueur.
Autre question, quel est le joueur le plus fort que t'as affronté cette saison en Ligue 1, hein, tu dirais, qui t'a posé le plus de problèmes?
C'est vrai que cette saison, il y a eu beaucoup de bons joueurs. J'ai été vraiment impressionné par Alexis Sanchez de Marseille. Ouais. Pour moi, c'est un joueur vraiment vraiment complet. Il a vraiment été difficile à jouer parce que voilà, il est capable de garder le ballon, il est capable, il a des appels redoutables, donc c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. Après, c'est vrai que de jouer contre Kylian Mbappé, c'est toujours un moment important dans une saison. C'est un joueur vraiment qu'on craint avant de l'affronter. On se demande qui va être au marquage pour pouvoir essayer de l'arrêter. Mais non,
après, comportement sur le terrain, Kylian, ça va?
Non, franchement, ça va. Après, moi, quand je l'ai affronté à Strasbourg, ça s'est bien passé pour lui. Donc, je pense que c'est pareil que pour tout joueur. On va dire que on se comporte toujours mieux quand on gagne un match que l'inverse. Mais après, non, je dirais d'un point de vue général, je trouve vraiment que la Ligue 1 est en voie de développement. Je pense à un joueur que j'ai découvert cette saison, l'attaquant de Reims, Balogun, qui m'a vraiment impressionné quand on l'a joué avec Lens récemment. Donc non, encore une fois, il y a vraiment de très bons joueurs, que ce soit jeunes ou moins jeunes, et c'est très bon pour le championnat.
Question qu'on pose également à tous nos invités, Adrien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien de footballeur?
Ce que je préfère, c'est me lever tous les matins et me dire que je vais jouer au foot.
C'est marrant, c'est vraiment la réponse que tous nos invités nous donnent. On pourrait croire une belle victoire à domicile. C'est ce qu'on nous dit, c'est le quotidien, c'est vraiment
génial.
La route pour aller à l'entraînement le matin. Bah, c'est une chance.
Ah ouais, franchement, moi j'ai la chance, comme on est plusieurs dans ce cas-là, de vivre de ma passion. Et ça, c'est quelque chose d'assez inespéré. Je pense que chaque individu rêve de ça. Et moi, je me rends vraiment compte de la chance que j'ai, parce que j'ai pas eu un parcours linéaire, je suis pas passé par les centres de formation, et c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vivre du football. Ouais.
Alors, comme tu aimes l'after, on va faire un petit kiff avec toi, Adrien. On va lancer un jingle que tu connais par cœur. C'est parti, jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les 3 points d'Adrien Thomasson sur sa saison lensoise. En 20 secondes, Adrien, on t'écoute.
Alors le premier point, ça sera la qualification en Ligue des Champions et la place de vice-champion de France. Mon deuxième point, ça sera le maintien du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Et mon troisième point pour finir, ça sera un match à Bollaert, chose que je souhaite à tout fan de football. Ouais.
Magnifique, mais
superbe.
Il a toujours fait ça, on te prend en direct dans l'after, mon cher Adrien. Il y a le ton, il y a le fond, il y a tout ce qu'il faut, c'était un régal de t'avoir.
Juste une chose, que moi quand j'écoute les 3 points le soir, si vous pouvez passer le message à Daniel qu'il est toujours un peu trop long dans ces 3 points.
Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Si on le passerait un peu à tout le monde, même au drôle de Dan notamment. Merci Adrien, merci Gibo.
Merci beaucoup.
Bon, Gibo, tu l'avais dit, on allait se régaler, on s'est régalé.
Bah oui, c'est chose pour une chose due, ce n'est que le début. Hein. Bon, il va venir nous voir de temps en temps la saison prochaine.
On l'espère. Merci infiniment Adrien. Plaisir.
Merci à vous. Merci et puis continuez comme ça. Félicitations à vous. Ouais.
Et merci au RC Lens également, bien sûr, hein, qui a toujours joué le jeu quand on a lancé les invitations tout au long de la saison de Génération After. On peut gagner, avoir de l'ambition et à la fois se rendre disponible. C'est le cas du Racing Club de Lens. On espère que ce sera encore le cas la saison prochaine, hein, avec la Ligue des Champions.
Plus avant que finalement on porte pas la guigne dans Génération After.
Eh oui, moins que l'autre émission.
Ouais, je sais pas.
Allez,
le vent nouveau.
Le tennis, Eric Salio, comment ça se passe pour Arthur Rinderknecht?
Super pour l'instant. Une manche à zéro pour le français Arthur Rinderknecht, un tennis champagne. Mais ça s'est rééquilibré dans le deuxième. Donc 6-2 et 3 partout dans cette deuxième manche. On sent que Fritz commence à prendre ses marques. Et puis il est peut-être moins impressionné ici par l'ambiance qui est merveilleuse. Alors il y a moins de monde élan que sur le central. Il fait 10 000, hein, le Linglen. Mais on sent que le public est vraiment derrière Arthur et que lui, il a envie de tout donner pour sauver le bilan tricolore. Et puis sur le central, justement, 1-7-0 pour Sacha Zverev, 6-4 face à Alec Molkan.
Sylvain Lenglen, bien sûr, à guichet fermé. Hein, c'est plein, c'est impressionnant, Eric.
Hein, c'est beau, il fait le tour est merveilleux.
C'est pas vrai, hein, c'est pas plein du tout. Hein, mais bon, bref.
Il y a quelques trous, mais bon, on va pas chipoter.
Ce sera pas le Matmut demain soir pour Bordeaux, Rodez, 42 000 spectateurs. Allez, pause, on vient dans un instant. T'en dire un mot de Ligue 2 peut-être, hein, avant le dénouement demain soir sur RMC, le multiplex de la dernière journée. Reste avec nous, Génération After, on parle du PSG, on parle de Marco Asensio dans un instant.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Simon Dutin. Merci de nous écouter. RMC, 21h24. Le tennis, rapidement avec Salio. Où en est-on, Fritz Rinderknecht?
1-7-0 donc pour le français. 6 jeux à 2, 3 partout dans la deuxième manche. Taylor Fritz, membre du top 10. 2 balles, une plus qu'une, okay, pour faire 4-3 et 1-7-0. Et break d'entrée de deuxième pour Sacha Zverev, 6-4-1-0.
Le PSG à présent dans Génération After. Information du jour, Marco Asensio dit 27 ans, Real Madrid, en fin de contrat, 3 Ligues des Champions notamment, a choisi Paris, joueur de l'écurie Georges Mendes. Ça aide bien sûr hein, quand on veut parler au Paris Saint-Germain. On en parlera nous dans un instant. Salaire sur la table, entre 8 et 10 millions d'euros annuels pour ce joueur.
Encore alors, Georges Mendes ?
Ah bah oui, t'as raison.
Ah d'accord.
Ça aide, ah bah oui, comme Renato Sanchez. On veut toucher
comme Carlos Soler. Attends, Vitinha aussi ?
Ah d'accord.
Non, pas Vitinha. Ah, si, Vitinha.
Ouais, d'accord.
Zahir Emery.
Ah ouais, ok.
Bichabou. Allez.
Bernardo Silva qui en parlait
aussi. Ah si,
aussi. Oui, d'accord, ok.
Ougarté, non.
Non.
Ah si, on me dit que oui.
On me dit que oui. On nous dit que oui.
Alors, Ronan Marco Asensio, il correspond au profil recherché par le PSG. Joueur d'équipe, puncher, qui crée des déséquilibres polyvalents et créatif, qui crée du mouvement et des opportunités qui peuvent profiter à Kylian Mbappé. Mais pas attendu forcément comme un titulaire indiscutable à Asensio cette saison. 50 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real. La plupart en tant que remplaçant. Hein, 32 entrées en jeu, 12 buts et 8 passes décisives. Est-ce une bonne pioche ou Asensio ou pas Asensio au PSG. Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Fred Armel est avec nous, je crois. Ça y est, il est là, mon cher Fredo, qui l'a connu, bien sûr, pendant de nombreuses années à Madrid. Bonsoir, Fredo.
Hola chicos.
Merci de te rendre disponible ce soir, mon cher Fred. Quand tu lis ça aujourd'hui, tu te dis quoi spontanément ? Pas mal, il arriverait libre ? Ou tu te dis, je sais pas, Asensio, j'en suis revenu ?
J'en suis pas revenu. Alors, ce n'est pas le joueur que tout le monde à Madrid avait imaginé. C'est-à-dire, c'est un talent fou, vraiment un talent énorme. Depuis son éclosion grâce à Zidane lors de la saison 2016-2017, on s'attendait à voir un possible Ballon d'Or, mais vraiment je pèse mes mots. Après, il a eu cette grave blessure, il s'est fait les croisés, il n'a jamais retrouvé son niveau absolu. Et puis c'est quelqu'un qui, et pour en avoir souvent discuté avec Zizou, c'est quelqu'un, je cite Zizou, qui ne sait pas se faire mal à l'entraînement. Ah. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait besoin, qui n'a pas envie d'être le meilleur. Il est très fort, il pourrait être le meilleur, mais il ne se donne peut-être pas forcément les moyens d'être le meilleur.
C'est un bon profil pour le PSG, ça, en tout cas.
C'est le profil idoine, j'ai envie de dire.
C'est idéal.
Bon, peut-être qu'il évolue à cette situation.
Oui, mais à côté de ça, il a une frappe extraordinaire. Franchement, c'est le meilleur frappeur du Real Madrid. Je pense que du côté du PSG, il y a un petit déficit à ce niveau-là. Il frappe de loin, il décoche des frappes vraiment illisibles pour les gardiens, c'est-à-dire que ça part d'un coup. Techniquement, il est très fort. Physiquement, alors quand je dis qu'il ne se fait pas mal à l'entraînement, je ne dis pas qu'il ne travaille pas. C'est quelqu'un qui donne satisfaction à l'entraînement. Mais c'est pas Cristiano Ronaldo qui en fait plus que les autres.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on lui demande. Mais c'est pas quelqu'un qui va se défoncer comme le peuvent faire certains joueurs avec cette envie tous les jours de montrer qu'il est le meilleur. Non. Après, sincèrement, moi je pense que c'est une bonne pioche. Un joueur qui arrive gratuitement, qui est dans la force de l'âge, qui a travaillé au quotidien avec les meilleurs du monde, qui a été entraîné par les meilleurs. Il n'y a pas de risque avec Asensio. Asensio, ça ne sera pas un flop au PSG. Vraiment.
Oula.
Sauf si. Ouais.
Pourquoi attention, Fred, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on attendait pas être un flop et qui ont été un flop retentissant. Donc, je trouve au contraire que Asensio a toutes les caractéristiques de celui qui peut être un flop, libre ou pas libre. Après, ça reste un très beau joueur de foot, mais pour le coup, un joueur qui est remplaçant au Real, un joueur qui quand même, comme tu viens de le dire, a la réputation de pas être un gros bosseur. T'arrives au Paris Saint-Germain alors qu'on veut.
Il y avait aussi un petit goût pour la fête, hein. Tu disais
avec tous les à côté.
Ouais.
Ce qui se passe,
Fred, la gratuité. Si c'est 10 millions par an, la gratuité plus la prime à la signature.
Oui, vas-y, bah ça, après, les salaires. Il vient au PSG parce qu'au Real, on ne lui a pas proposé le salaire que pouvait lui proposer.
Mais ça, c'est toujours
PSG,
un problème.
Hein. Il va gagner le double. Ça,
c'est un problème. Ça.
Les négociations. Si le Real avait mis autant d'argent sur la table au salaire, il serait resté à Madrid. Non, mais simplement, c'est-à-dire que moi, vous me parlez de Soler, vous me parlez de Sarabia. Je vous aurais dit, oui, c'est pas mal, mais là, on est dans une autre
dimension. C'est plus fort quand même, Fred, je suis d'accord.
Ah bah attendez, mais ça n'a rien à voir.
Bien sûr.
C'est-à-dire que j'ai été le premier à dire, Carlos Soler a été à ses débuts à Valence, un grand espoir du football espagnol, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il n'irait pas très haut. Asensio, il est déjà très haut. C'est quelqu'un qui a marqué un but en finale Ligue des Champions contre la Juve aussi. Attention, hein.
Oui, mais ça remonte voilà, quand même. Ça remonte à 2017. Ça quand remonte. Même.
C'est 2017. 2017.
Ouais, bah, j'étais en
oui,
5e C.
Mais je veux dire, non, mais tout ça pour dire que c'est comme, je veux dire que c'est un joueur qui a l'habitude du très haut niveau et surtout la pression, il ne la sent pas. C'est-à-dire que c'est pour des matchs importants et on a vu que parfois au Paris Saint-Germain. Qu'il y avait des joueurs qui étaient voilà qui avaient des problèmes dans les grands matchs. Asensio lui il assure dans les grands matchs quoi.
Ouais, il est remplaçant donc, quand même au Real Fred. On est d'accord.
Ça, bah, oui c'est un remplaçant mais c'est un c'est souvent le premier ou le deuxième choix dans tout le
monde. Ça reste un remplaçant. Donc,
après ouais, on parle du Real Madrid. Hein. On parle du niveau du Real Madrid.
Il n'est pas remplaçant à l'USPTT ouais. Avant, merci quand même.
T'es remplaçant.
Non mais Simon est excité pour depuis tout à l'heure.
Je remercie Fred. Non mais c'est pas excité.
Je remercie Fred qui nous a fait l'honneur de venir ce soir dans Génération.
Allez bonne soirée Fredo.
Merci à toi. Je vous dis je suis à Angers. Ah, puisque demain, et cette oui. midi, sera, oui. puisque nous avons de nouveaux auditeurs à Angers, nous avons une nouvelle fréquence
Exactement.
À Angers. Et donc, toute l'équipe d'Estelle est à Angers. Demain, nous faisons l'émission en direct d'Angers.
Eh bien, voilà. Tu salues Estelle, Fredo, et tous les Angevins, et comme on salue ceux qui nous écoutent voilà. ce soir dans Génération After, hein, nouvelle fréquence depuis deux semaines, à Angers, fréquence RMC, bien sûr. On fait une pause dans un instant.
Simon trépine, là. Ouais. Simon, là, il peut défendre Asensio. Là, sincèrement, il est pas bien du tout.
Simon, il a confondu Asensio. Et Vinicius, c'est pas les mêmes. Hein.
Ça aussi, c'est condescendant.
Non, mais Vinicius, il est titulaire.
Pas grave, voilà.
Nicolas arrivera également au 32-16, supporter du PSG, pour nous appeler aussi. Merci d'écouter RMC Génération After 21h31. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour. Merci d'écouter RMC. Il est 21h36. Eric Salio, le tennis. Le dernier Français sur un court. Le dernier Français dans le tableau masculin. Où en est-on, Arthur Hinderknecht?
C'est un moment important puisque Taylor Fritz se procure une balle de 7, une balle d'égalisation, une manche partout sur la mise en jeu du Français. Superbe amorti.
Incroyable.
Quelle inspiration d'Arthur Hinderknecht. C'est pas la première fois qu'il piège l'Américain sur ce coup de toucher. Mais il y a encore une balle de 7 à sauver les enfants. C'est ça qui m'embête.
Ah ouais, Fritz, il a envoyé la maillot là, Fritz.
Ça fait 3 fois qu'il essaie de la passer, ça va. Non, sérieux.
5-4, c'est du comique de répétition, ça. Et 5-4, deuxième set pour Taylor Fritz, 30-40. Qu'est-ce qu'on fait? On la suit parce
allez, vas-y. Ah bah oui.
Là, je pense que le bilan français peut dépendre de ce point. Parce que si jamais il y a un set partout. Ah oui, non, mais Nico, tu connais le tennis.
T'as raison.
Ça se joue à des détails. Et parfois, il faut qu'il efface cette balle de 7 pour que le public explose et le soutienne encore un peu plus. Mais ça va se jouer sur une deuxième balle de service. Attention, danger. Arthur qui a une bonne deuxième, il va servir à 160, 170, 151. Oui, c'était un peu plus de l'art et ça permet à Fritz de prendre le terrain. Et voilà, c'est fait à 7 partout. C'est ce que je craignais malheureusement.
Aïe. Fritz, il est huilé là. Hein.
Oui. La moutarde du Montonnet.
Bon. Sous les yeux de sa chérie, Taylor Fritz, une influenceuse américaine.
Oui. D'accord.
Elle le suit partout et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il lui a vendu le projet du printemps européen. Ouais, tu verras, Monte Carlo, c'est sympa. Bon, il faisait bon. Et après, ils sont allés à Munich. Il faisait moins 10 degrés là-bas.
Pourquoi il amène à Munich?
Parce qu'il a joué Munich derrière. Elle a failli mourir de froid.
Il aurait pu faire
amener ses tenues d'estival, quoi. Elle a dû.
Ouais, bon, pourquoi pas.
Bon, bref.
Merci, Eric. Le roi des gossips du circuit ATP et WTA.
En plus, Eric Salio. Il a enchaîné avec Rome, il y avait un sale temps.
Marco, tout à fait, il a plu toute la semaine, les 10 jours. Marco Asensio, donc, qui devrait, a priori, signer au PSG, c'est très bien avancé, très bien engagé, arriver libre au Paris Saint-Germain, salaire qui oscillerait entre 8 et 10 millions d'euros annuels. J'accueille Nicolas au 32-16. Salut, Nicolas.
Salut
Nicolas.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Ça fait bizarre de repasser en direct. Bon, je vais essayer de refaire simple, concis. Moi, pour la petite histoire, j'ai appelé tout à l'heure pour Jérôme Roten qui parlait de Lucas Hernandez à Paris.
Oui.
Ce qui est bien, c'est qu'on est sur le même thème en fin de compte. On parle d'un infirme sur une jambe, Asensio et Lucas Hernandez. C'est la même chose. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait une saison complète. C'est la première fois que je vous appelle. Je me suis dit tiens bah là le coup de gueule c'est bon, il y en a ras le cul. Il y en a marre.
Ras-le-bol, oui.
On parle de Mourinho qui est dépassé depuis 2011 à l'Inter. On parle d'Asensio qui joue sur une jambe depuis 3 ans. On parle de Lucas Hernandez qui n'est que l'ombre de lui-même depuis 2018. Je suis supporter parisien. moi, le melon d'Mbappé, etc., me dérange.
Ah oui, là, c'est.
Ah ouais, mais ça arrête. Non, il faut arrêter le foot, Nico.
Forcé de constater que Lucas Hernandez, en 2018, en termes de caractère, etc., tu te dis, putain, Paris, si on avait un mec, ne serait-ce que trois joueurs comme ça, sur, allez, deux, même deux, dans le 11.
Bon.
Pas du bien. Mais il faut qu'il joue au football quand même. Parce qu'un mec qui est blessé 6 mois de l'année, ben on a du Neymar. On a en pagaille.
Nico, on va parler de nos informations. Lucas Hernandez dans un instant également. On va rester sur Marco Asensio dans un premier temps. Tu restes avec nous, bien sûr. Simon, tu voulais réagir, notamment à ce que disait Fred Armel également. Toi, t'es convaincu par l'arrivée d'Asensio?
Non, mais alors, attention, effectivement, aux adjectifs qu'on emploie. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, pour Paris. Et je pense que il faut être, je sais pas, réaliste. On avait eu la conversation sur l'espèce de toute proportion gardée, trou générationnel qu'il y a dans les méga stars du foot mondial, quoi. Bon, je sais que t'es un fan de Vinicius, tu vois, effectivement, au poste où on parle d'Asensio. Bon, comme on disait, il est remplaçant, faut regarder où il est remplaçant. Il a été remplaçant derrière la BBC à une époque.
Ça gauche quand même, Vinicius.
Bale, Benzema. Ouais, d'accord. Ouais. Asensio, je pense qu'il n'est pas embêté.
Oui, il peut jouer à gauche.
Il peut même jouer dans l'axe en soutien d'un attaquant. Il a une polyvalence. Il a un pied gauche. Effectivement, je crois qu'il y a un délit de, alors non pas sale gueule, de belle gueule, tu vois. Il aime bien, je pense qu'il s'aime bien physiquement, il doit plaire aux gonzesses, il travaille un petit peu son image.
Aux femmes.
Il y a eu cette... aux femmes, excusez-moi, Nicolas, Germain. Effectivement, désormais, après la BBC, bon, effectivement, il y a eu l'éclosion de Vinicius, il y a eu l'éclosion de Rodrigo, c'est compliqué. Bon, je pense que c'est un excellent joueur qui connaît les altitudes auxquelles le PSG entend briller chaque saison, que ce soit avec la sélection nationale, où bon, il n'a pas encore une histoire tout à fait complète, mais aussi en Ligue des Champions, il connaît le chemin, même si c'est sur le banc. Il a déjà marqué dans les grands matchs, il est décisif, il a pour lui une qualité. Alors qui l'a peut-être desservi, c'est qu'il a une immense confiance en lui. Voilà, c'est ce que disent ses entraîneurs, les observateurs. C'est un mec qui a rincé tout le monde dans les sélections de jeunes, qui était une des superstars mondiales au niveau des sélections de jeunes. Il a gagné l'Euro U19 en 2015, il a gagné l'Euro Espoir.
Non mais là, t'es sur ESPN classique, là, Simon.
Non mais ce que je veux dire,
oui,
c'est que
il y a 10 ans. Là.
Ouais, là, il faut.
Mais les mecs, ici, cette culture qui consiste à dire, comme le supporter du PSG qu'on vient d'entendre, la blessure fait aussi partie football. Tu peux pas t'empêcher de dire que tu peux pas t'empêcher de recruter des mecs sous prétexte qu'ils ont été blessés et qu'ils ont connu de graves blessures. C'est un mec qui a eu une passe très largement au-dessus de la moyenne. Il s'est terminé les actions.
Il n'a jamais été titulaire du Real Madrid, Simon. Simon,
mais
il n'a jamais été titulaire
au Real Madrid. On peut les comparer, les joueurs.
Allez, Walid,
encore une fois, je ne te dis pas que c'est le top joueur en Europe, le top joueur en Europe qu'il faut recruter. J'espère que pour les supporters du PSG, qu'il sera accompagné par d'autres joueurs. Je pense qu'un Asensio libre, qui va en plus être regonflé par un nouveau club et de nouveaux objectifs, un nouveau contexte. Ouais, avec la colonie espagnole, les souvenirs, les Ruiz, les Ramos.
Allez, Walid, réponds et après Kevin.
Non, mais juste pour répondre à Simon, moi j'entends bien évidemment que
tu m'expliques d'ores et déjà que ça va pas marcher, que c'est une connerie.
Je dis pas ça. J'ai pas la science infuse. On jugera sur pièce. Si Asensio arrive au Paris Saint-Germain et que ça fonctionne, t'inquiète pas. Je pense que je dois avoir une flopée de mea culpa. Non, mais sur la dernière année, on le dira sans aucun problème et sans aucun ego. Maintenant, aujourd'hui, si tu me poses la question, Asensio, ça reste un joueur, déjà, qui arrive libre. S'il arrive au Paris Saint-Germain, quand on voit les montants, parce que tout à l'heure, et je posais la question à Fred, quand on parle de gratuité, arrêtons de parler de gratuité. Quand tu vas donner 10 millions, ou en tout cas entre 8, il arrive libre.
La nuance.
C'est bien, il arrive libre. Mais entre arriver libre, bien évidemment, et donner entre 40 et 50 millions d'euros, parce qu'on parle d'un contrat de 5 ans, donc entre 8 et 10 millions d'euros par an.
Ah mais ça, plus parlons par an.
Mais pour un statut de remplaçant, parce que j'imagine pas le Paris Saint-Germain, bien évidemment, j'espère que Asensio arrive dans un rôle de remplaçant, un peu à la Sarabia, un peu à la Carlos Soler, et qu'il travaille sur d'autres dossiers, d'autres gros dossiers. Mais même sur un statut de remplaçant, quand on voit les remplaçants qui sont arrivés au Paris Saint-Germain sur les dernières années, tu les as surpayés
Et en fait, le Paris Saint-Germain n'apprend pas de ses erreurs.
Quand tu donnes 8 millions et demi à Moukielé, tu donnes 8 millions et demi à Bernat. Walid, de quoi on parle? On est à Paris.
Bah donc il faut pas encore une fois reproduire les mêmes erreurs.
Et quand tu donnes,
c'est pas parce qu'ils ont donné même 25 millions à Bernat que encore une fois tu dois redonner ces montants-là à ces joueurs-là. Parce qu'aujourd'hui, Asensio, pourquoi il vient au Paris Saint-Germain?
Est-ce que c'est pas le moyen pour le PSG d'attirer ce genre de joueurs aussi?
Mais ça n'a pas marché, les gars.
Le mec qui vend la Ligue 1, qui n'est pas
laisse-moi terminer là-dessus. Je vais aller au bout. C'est que quand tu vois le traitement des remplaçants, quand tu vois la colonie espagnole qui est arrivée sur les dernières années au Paris Saint-Germain, je vais même pas vous parler de Ressé, hein, parce que Ressé c'est 2016. Mais entre eux,
attendez,
quand Ressé arrive à l'époque en 2016, refais-toi ce qu'on disait sur Ressé.
Mais bref, c'est le chouchou de Zidane, mais bon, il avait bien montré.
On va pas parler de Ressé. On va parler de ce Carlos Soler. On va parler de Sarabia. On va parler de Fabián Ruiz. On va parler de tous ces joueurs-là qui sont arrivés, mais même Ander Herrera sont des joueurs qui ont été dans un statut de remplaçant, qui n'ont pas eu la dalle. Et Fred te le dit tout à l'heure, c'est un joueur qui entre guillemets a toujours été dans un rôle de second couteau au Real Madrid. Il a eu des grosses blessures.
Et il s'en est contenté.
Et s'il était si bon même dans son rôle de second couteau, pourquoi tous les clubs européens ne le s'arrachent pas?
Et pourquoi Toni Kroos il te dit, je suis dégoûté, il va s'en aller, va s'en aller parce que il est pas content d'être remplaçant.
Aston Villa est intéressé.
Ah donc le PSG est en concurrence avec Aston Villa maintenant.
Et
6-4 pour Telofrid dans le deuxième. On débute à peine le troisième puisque le français, le breton est allé se changer. Ouais, les fameuses pauses insupportables.
Ah, tout à l'heure, Eric, hein, on prolonge le débat sur Marco Asensio. On parlera également de Lucas Hernandez et on écoutera Christophe Galtier sur Léo Messi. Restez avec nous, c'est Génération After.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain. Soir animé dans Génération After avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Simon Dutin. Notre débat porte sur Marco Asensio qui se rapproche du Paris Saint-Germain, fin de contrat. Il a envie de venir à Paris pour relancer une carrière de remplaçant au Real Madrid. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que Gilles Babribois, Daniel Riolo et Stéphane Guy seront là pour l'after jusqu'à minuit. Kevin, ton avis sur Asensio? Bien ou pas bien pour Paris?
Bon, si on replace les choses dans ce fameux contexte dont on parle depuis le début de l'after, entre un joueur, un club et même un entraîneur, même si on ne connaît pas encore l'entraîneur au Paris Saint-Germain, on ne sait pas si ce sera Christophe Galtier ou un autre.
Ce sera pas Christophe Galtier.
Ok, donc ça ne devrait pas être Christophe Galtier.
Grosse info.
Tu lances une info là. Voilà, bombasso.
Voilà, je vais être repris partout, Paris ESPN.
Bombasso. Mais le problème, c'est que entre ce que nous dit Fred, entre ce qu'on sait du joueur, ce qu'on a vu du joueur, son statut au Real, et surtout, la question à se poser quand tu viens au PSG aujourd'hui, c'est pourquoi tu viens au Paris Saint-Germain? Est-ce que tu viens au Paris Saint-Germain pour relancer une carrière? Est-ce que tu viens au Paris Saint-Germain parce que c'est l'étape d'après, comme ça a été à l'époque avec Marco Verratti quand il arrive de Pescara? Il y a différents profils de joueurs qui sont arrivés au PSG. Mais le joueur qui arrive, qui est remplaçant dans son club, qui choisit le Paris Saint-Germain, non pas pour le projet sportif, mais clairement pour le salaire qui lui est proposé, même avec Wijnaldum qui était un professionnel irréprochable depuis le début de sa carrière, ça n'a pas marché. Donc on peut considérer que ce n'était pas un joueur assez bon pour le PSG si on veut, mais moi je considère que Asensio n'est pas le profil idoine recherché aujourd'hui dans le PSG version Kylian Mbappé qui veut des mecs ultra professionnels, des mecs où il n'y a pas de doute, le mec il arrive, c'est du Bernardo Silva, c'est du Skriniar, c'est du professionnel aguerri, c'est des mecs t'as aucun doute, il va prendre son chèque, mais le gars tu sais ce que tu vas avoir sur le terrain et à moins d'une blessure que ça tu ne peux pas contrôler, et malheureusement même ça Asensio l'a connu et la plus grave pour un footballeur. Donc ouais, j'ai envie de dire ça peut marcher, mais pour l'instant tous les voyants sont au rouge voire au orange.
Tout à l'heure l'auditeur disait un truc intéressant, c'est que tous les joueurs qui sont ciblés actuellement, hormis peut-être Bernardo Silva, mais quand tu prends Lucas Hernandez, quand tu prends aujourd'hui Asensio, même si c'est bien évidemment des contextes totalement différents, il y a des gros doutes. il y a à chaque fois des gros doutes. Même Skriniar, tu le disais, depuis qu'il doit aller au Paris Saint-Germain, le mec, ça fait 6 mois qu'il joue pas à l'Inter Milan. Il a des gros problèmes de dos. Et moi, ce qui me dérange sur Asensio, parce que Simon, attention, l'idée n'est pas bête, hein, dans l'absolu. Asensio a fait des choses intéressantes au Real Madrid, des choses très très bonnes il y a très très longtemps. Mais même là, sur la période récente, il y a eu 2-3 entrées, exactement, 2-3 titularisations en Liga qui ont été plutôt bonnes de la part d'Asensio. Maintenant, moi, j'explique que, je répète, on parle d'une masse salariale qui doit être allégée. On parle de Lionel Messi qui va partir. Si c'est pour mettre 10 millions d'euros par an pour un mec qui va venir et qui va s'asseoir,
oui, mais attends,
moi, ça me dérange.
Attends, il aurait pu coûter 20 millions d'euros s'il était
avec le salaire de Messi. Hein,
Il n'y a pas de transfert.
Oui, d'accord, il n'y a pas de transfert. Mais encore une fois, ce sont des joueurs quand même qui vont prendre dans cette masse salariale de l'importance. Et je
il sera 8 ou 9e salaire du PSG à ce tarif-là.
Je suis désolé, mais quand je vois le banc des remplaçants, il y a un gros débat sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai besoin d'avoir des mecs, surtout en plus si Lionel Messi part, donc il va avoir un peu plus de place sur le front de l'attaque, notamment pour certains joueurs. Il va avoir une concurrence un peu plus au mérite sur les prochaines années. J'ai besoin d'avoir des joueurs qui ont la dalle. Et quand j'entends Fred, quand je vois notamment ce qui se dit sur Asensio, c'est pas pour moi un joueur qui a la personnalité pour jouer dans un grand club.
Bon,
quand je dis jouer dans un grand club, c'est bien évidemment jouer titulaire ou essayer d'aller chercher sa place. Parce que je répète, mais Asensio, c'est pas comme s'il n'y avait pas de problème à droite du côté du Real Madrid depuis 2 ans. On parle d'une équipe où Valverde a été obligé de jouer ailier droit. Ouais. On parle d'un joueur, on parle d'une équipe où c'est Rodrigo qui lui est passé devant, où tout le monde lui est passé devant. Donc je suis désolé, moi, Asensio a 10 millions d'euros par an, c'est non. Et surtout, et je t'arriverai, la colonie espagnole, s'il y a bien un pays en ce moment où les joueurs ne sont pas autosuffisants, c'est offensivement. On l'a bien vu sur les dernières Coupes du Monde et les derniers Euros. Et aujourd'hui, le PSG, ils vont piocher où? Ils vont piocher chez les joueurs espagnols. Carlos Soler, Asensio, tous ces mecs-là qui sont pas bons actuellement.
Je pense que Asensio est bien meilleur que Soler.
C'est pas un Espagnol, c'est un Français. Quoi qu'il a grandi une partie de sa jeunesse en Espagne, c'est Lucas Hernandez, hein, qui a repoussé, information RMC Sport, l'offre de prolongation de 3 ans du FC Bayern, sous contrat jusqu'en 2024. Au PSG, on est optimiste sur la possibilité de le faire venir, même si les dirigeants parisiens ont conscience que le Bayern risque de ne pas lâcher facilement à Paris. On aime Lucas Hernandez pour sa mentalité, sa combativité, son expérience. Voilà. Nouveau couac de communication, messieurs, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, signé Christophe Galtier. C'était ce midi en conférence de presse. Écoutons le coach du PSG.
Que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible. Les remarques ou les critiques que je trouve pas du tout justifiées, mais pas du tout justifiées. Quand vous avez 35 ans et dans une saison où il y a une Coupe du Monde au milieu et que vos stats à la sortie, elles sont à peu près de toute compétition confondue, je crois 21 buts et 22 passes décisives, des choses comme ça, c'est-à-dire que Léo, il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au service de l'équipe. Pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège de l'accompagner tout au long de la saison.
Dernier match au PSG ce samedi pour Léo Messi.
Il accompagne.
Donc, dernier match de sa carrière au Parc des Princes.
Quelques heures après,
Galtier, c'est Walid Achachour, il accompagne quoi le mec.
Quelques heures après, la direction du PSG parle à nos confrères de l'AFP. Voici ce que dit la direction. Notre entraîneur s'est mal exprimé. Le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc des Princes avec le PSG cette saison. Cette saison. Façon de dire, n'allons pas trop vite. Il n'y a aucune officialisation de son départ du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier est allé un petit peu trop vite dans ses propos.
Ça fait quand même pas mal de fois où Christophe Galtier.
Ça ne change rien à l'avenir de Messi à Paris, hein, bien sûr. Hein.
S'exprime.
Mais Paris veut maîtriser sa communication.
Souvent, il s'exprime mal. Enfin, il s'exprime mal. Il s'exprime bien, mais apparemment, souvent, 2 jours après, 3 jours après cette saison.
De manière un peu maladroite.
Ouais, on a eu
besoin de clarification.
Ouais, des erratums.
Tiens, messieurs, sachez dernière information avant de passer la main à Gilbert, Daniel et Stéphane Guy. Il n'y aura pas de fête au Parc des Princes pour le titre, remise de trophée de champion de France. Mais compte tenu de l'état grave de Sadio Rico, après son accident, la cérémonie se déroulera avec sobriété, avec retenue. Voilà pour les informations. Et puis sachez que Will Steel a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Ouais. Et que le Stade de Reims ne paiera plus d'amende, hein, puisqu'il n'a pas le diplôme, puisqu'il a engagé, ça y est, dans une formation d'entraîneur au plus haut niveau. Voilà pour Génération et After.
Dernière info, je crois qu'il n'y aura pas de fête de fin de saison à Monaco non plus avec les supporters.
Ah bon, c'est bizarre ça.
Ah oui, parce que magnifique communiqué.
Très joli communiqué quand même.
Des ultras monégasques 1994 qui
une super saison.
Sont très en colère. Alors il parle rarement, mais quand il parle, il tape très fort. Ouais. Ils disent, ils dénoncent le comportement inacceptable et le manque de professionnalisme abusif d'une grande partie des joueurs de notre équipe première. L'AS Monaco est devenu un club de vacances pour des joueurs.
Ah bon.
Comment les joueurs peuvent-ils se permettre chaque semaine de s'alcooliser à outrance dans les bars de la Principauté jusqu'à 5h du matin alors qu'ils entraînent à 10h30. Voilà.
D'accord.
Okay. Ah ouais, d'accord, j'entends le. Mais je ne l'ai pas dit il y a un mois, ça ?
Je ne sais pas, il y a un mois, on m'a dit que j'étais très très dur sur Monaco, moi.
Voilà pour Génération After. Rendez-vous dans quelques secondes avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Stéphane Guy. Pour l'After jusqu'à minuit, merci Kevin, merci Simon, merci Wally.
Salut tout le monde.
Très bonne soirée à vous sur RMC.